Lettre de Frère Joseph Branham du 9 août 2026. Les aigles se rassemblent. Chère épouse de Christ, rassemblons-nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter l'âge de l'église de Pergame du 7 décembre 1960. Frère Joseph Branham.
Très bien. Bon, à mon avis, ce serait mieux de l'éteindre. Très bien. Nous sommes si heureux d'être de nouveau ici ce soir, au service du Seigneur. Hier soir, j'ai vraiment eu l'impression que le millénium était arrivé. Et alors, maintenant, nous avons des... Je crois qu'il y a des questions ici. Je vais les mettre dans ma poche, afin... Je pense que ceci, c'est une prière pour que l'on prie dessus. Et nous sommes... Et je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Bon, s'il vous plaît, dites à Doc de venir éteindre ceci, comme son faisceau est braqué directement sur moi, pour que je ne sois pas sous les feux des projecteurs. Vous savez, je ne suis pas un de ces prédicateurs qui aime être sous les feux des projecteurs, alors je pense que ça irait mieux sans cela.
I asked for it, Doc. I'm repenting.
La dernière, c'est moi qui ai demandé cela, Doc. Je m'en repens. Je m'en repens, vois-tu. Oh, qu'est-ce que tu... Tu dois monter là-haut pour ajuster cela? Oh, eh bien, laisse ça comme ça. Oui, eh bien, laisse ça comme ça. Oh, non. Bon, ne fais pas tomber cela. Oui. À mon avis, là, c'est mieux. Parfois, je n'aime pas que la lumière me frappe en plein visage. Vous savez, Et elle était ici où je peux mieux voir. Je vous remercie, monsieur. Ça va lui coûter cher. Vous savez, on ne peut jamais terminer ces âges de l'Église. Et aujourd'hui, alors que j'étudiais cet âge-ci, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, « Oh là là, juste avec ça, j'ai assez de matière pour alimenter la prédication de 50 sermons. » Voyez, c'est juste, tout ce qu'on peut faire, c'est juste de toucher les points principaux. Et peut-être, au moment de rédiger le livre, on essaiera alors d'élaborer davantage. Je n'ai pas vu que vous étiez là, frère. Comment allez-vous, frère West? Je viens tout juste d'apprendre une bonne nouvelle. Le dernier membre de la famille de frère Dalton est entré. L'autre garçon, l'autre fille. Ça fait 10, n'est-ce pas? 9. Souvenez-vous que c'était sous le nouveau ministère, là-bas, que le Seigneur lui avait dit que sa famille serait sauvée. J'étais là à prier pour eux, sans savoir ce que je disais. Le Saint-Esprit a dit, « Je te donne ta famille. » Voyez? Ah oui. Et voici qu'ils sont tous là. Vous voyez comment le Seigneur agit? Voyez, les mots qu'il prononce sont parfaits. Ils ne faillissent jamais. Jamais. Eh bien, nous ne voulons pas toucher à la guérison divine. Nous essayons de traiter le plus longtemps cet aspect de ce qui a trait à la prophétie. Bon, ce soir, je vais tout simplement essayer de parler, si je le peux, des aspects historiques de ce grand âge de l'Église, de ce deuxième ou de ce troisième âge de l'Église que nous abordons ce soir. Est-ce que vous les appréciez? C'est simplement merveilleux. Je pense que c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur Jésus nous a bénis et nous a donné ces choses. Nous apprécions cela de tout notre cœur. Il nous fait savoir d'avance ce qui arrivera dans le futur. Il connaît la fin dès le commencement. Nous sommes donc très heureux de cela. Aussi, avons-nous confiance que le Seigneur nous bénira. Et si vous l'avez remarqué hier soir, le Saint-Esprit nous a donné, à la fin du service, 3 messages et 3 âmes, très exactement. Et quand l'Esprit parlait, c'est revenu sur la dernière interprétation, l'a répété et a dit ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Juste, et l'Esprit l'a dit à travers les dons qui opèrent dans l'Église. Oh, puisse l'Église faire preuve de respect envers cela. Voyez, faites preuve de respect. Faites attention, Satan viendra essayer de vous rendre fanatique en se servant de cela. Assurez-vous que chaque fois, c'est bien le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, il parlera directement de quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour l'édification de l'Église, voyez. Et si donc vous êtes respectueux envers ces choses, alors Dieu vous en donnera davantage. Voyez, il continuera simplement d'en ajouter de plus en plus. Et alors, maintenant quelqu'un a appelé pour demander, des gens ont appelé aujourd'hui pour demander quand auront lieu les services de guérison. Bon, dès que ces réunions seront terminées, dimanche soir prochain, je pars pour quelques jours, afin de reposer un peu ma gorge. Et le dimanche suivant, si le Seigneur le veut, nous aurons un service de guérison, le dimanche matin suivant. Ce sera je ne sais pas exactement quel jour ce sera, mais ce sera une semaine après, le 18, dimanche matin. Est-ce bien ça, frère Neville? Hein? Dimanche matin, le 18, nous prierons pour les malades. Bon, notre pasteur ici, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler de lui, mais j'aimerais que vous essayiez tous de rencontrer notre pasteur. Il est certainement un véritable frère en Christ. Nous sommes heureux d'avoir un frère qui est élevé dans la sainteté, dans un milieu méthodiste. Et nous connaissons tous Orman Neville. Tout le monde ici le connaît. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Il n'aime pas que je dise ça. Mais je préfère lui donner un petit bouton de rose maintenant plutôt qu'une couronne entière après qu'il est parti. Voyez, c'est maintenant le moment. Un soir, je sortais de l'église et quelqu'un m'a dit, « Oh, frère Branham, j'ai beaucoup apprécié ce sermon. » Et je lui ai dit, « Merci. » Et quelqu'un qui était là à la porte, il y a bien des années, ici au tabernacle, un ministre a dit, « Oh, Dieu soit béni, je ne souhaiterais pas qu'on me dise cela. » Voyez, il a dit, « Je voudrais que toute la gloire aille à Dieu. » J'ai dit, « Eh bien, c'est le cas. » Voyez, et j'ai dit, « Eh bien, moi, j'aime ça. » J'ai dit, « J'aime vraiment ça. » Et j'ai dit, « Je dois être honnête. » Et il a dit, « Oh, Dieu soit béni, je n'aime pas que les gens disent ça de moi. » J'ai dit, « Il n'y a qu'une différence entre moi et vous. Je suis honnête à ce sujet et vous ne l'êtes pas. Tout le monde aime. Si vous prenez un petit enfant et que vous faites un peu son éloge, il travaillera mieux. » Voyez, c'est vrai. Voyez, et Dieu le fait toujours. Il aime féliciter ses enfants quand ils agissent bien. Vous aimez leur dire quand ils agissent mal. Alors pourquoi ne pas les féliciter quand ils agissent bien? Voyez? Donc, je remercie vraiment Dieu pour Fresneville, lui qui est le pasteur de ce troupeau, ici, au tabernacle. Voir cet homme, issu d'un milieu méthodiste, lent à... Eh bien, c'est comme vouloir manger dans la mauvaise table. Ainsi... Mais il a compris grâce au glorieux Saint-Esprit, et maintenant il exerce ses dons. Et voyez combien le Saint-Esprit parle librement par lui, quand il met de côté ses propres pensées. Observez combien l'interprétation suit le même rythme, les mêmes accentuations, comme les noms et les pronoms et tout, et combien la réponse vient tout de suite. Et ce petit frère, je ne pense pas qu'il... Junior Jackson, eh bien, je vais rester tranquille, Junie. Je remercie Dieu pour Junie Jackson. Ce frère a certainement reçu un grand don du Seigneur. Soyez toujours humble. Eh bien, chaque personne dans l'Église a quelque chose à faire, mais ne l'utilisez jamais dans un but égoïste. Laissez cela s'harmoniser avec le reste de l'Église. C'est pour Dieu toutes ces choses. Voyez, que tous ne cherchent pas à parler en langue, que tous ne cherchent pas à interpréter. Essayez de faire ce qui est bien et continuez simplement d'être bon. Ne soyez pas méchant, ne gardez pas rancune, ne laissez pas entrer l'amertume. Peu importe combien la personne est méchante, combien on parle mal de vous, ne concevez jamais de mal dans votre cœur contre eux, parce que là, le diable va s'installer et manigancer quelque chose sur le champ. Couvrez ça totalement par l'amour divin, la confession. Mettez tout en ordre et faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, eh bien, a dit Jésus, les publicains n'agissent-ils pas de même? Voyez, les pécheurs, n'importe qui peut être bon envers ceux qui sont bons envers lui. Mais soyez bon envers ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites quelque chose pour ceux qui ne feraient rien pour vous. Dites une bonne parole en faveur de l'homme qui dirait du mal de vous. C'est ainsi que vous éloignerez toute amertume de votre cœur. Alors, vous éprouverez toujours de l'amour pour tout le monde, tant que vous demeurerez dans l'amour. Or, vous dites, eh bien, ils ont... Le juge, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui est le juge. Vous ne voudriez pas que ce pauvre homme soit rejeté, pas vrai? Certainement pas. Peu importe qui il est, vous ne voudriez pas ça. Alors, essayez d'être gentil avec eux. L'amour couvre une multitude de péchés. Ah oui, oui monsieur, l'amour, juste ce bon vieil amour chrétien, l'amour divin. Si un homme s'avance et vous traite d'exalté et de toutes sortes de noms, eh bien, n'agissez pas ainsi, voyez. Et si vous ne pouvez pas agir ainsi, éloignez-vous simplement. Mais dans votre cœur, vous devriez pouvoir dire, eh bien, c'est... Bon, frère, peut-être que si tu le voyais comme moi, tu aurais la même impression que moi à ce sujet. Voyez, soyez vraiment gentil avec lui et continuez votre chemin comme ça. Même si nous étions en désaccord, autant que l'Ouest est éloigné de l'Est, ça ne change rien. Comme je l'ai dit l'autre soir, j'ai un frère qui est... C'est tout un homme, Melvin. Il est grand et blond. Nous ne nous ressemblons pas plus que deux personnes qui n'ont aucun lien de parenté. Nos goûts sont différents, nos désirs sont différents. Et pourtant, sa mère, c'est ma mère, son père, c'est mon père. Il est mon frère, voyez? Parce que nous sommes nés dans la même famille. Nous sommes donc différents. Melvin n'est pas un chrétien et il aime le baseball, les courses de chevaux et tout. Et je pense qu'il aime la tarte au chocolat. Alors je suis certain que nous sommes différents là-dessus. Alors je n'aime pas les courses de chevaux ou le baseball. J'aime la pêche, la chasse. Voyez, il ne changerait pas d'avis là-dessus et moi non plus. Je ne changerai pas d'avis. Mais alors, vous voyez, il aime donc la tarte au chocolat et j'aime la tarte aux cerises. Ainsi donc, Bon, je n'essaie pas de vous donner des indices, vous voyez. Mais une fois, j'ai dit lors d'une réunion quelque part que j'aimais la tarte au chocolat. Et le soir suivant, j'avais environ 5 tartes au chocolat ou aux cerises. J'avais 4 ou 5 tartes aux cerises que les sœurs avaient faites et m'avaient apportées. Oh là là, nous avons eu tout un jubilé dans ma chambre. Mais je ne le disais pas dans ce but, voyez. Donc, c'est juste pour vous montrer la différence, voyez-vous. Mais peu importe ce qu'il est, je l'aime. Il est mon frère. Et donc, il n'est pas un chrétien, parce qu'il voit les choses sous un autre angle. Je vois les choses sous l'angle de la lumière de Christ. Mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas mon frère, étant donné que nous sommes des frères nés dans la même famille. Bon, hier soir, j'ai finalement cité quelque chose. Bon, souvenez-vous, le premier message qui avait été apporté à l'Église, après ceux que vous connaissez, en dehors de celui du Kentucky, c'était qu'il y aurait des choses mystérieuses dans cette série de réunions qui déplairaient à bien des gens. Vous en souvenez-vous? C'est enregistré là. Voyez, hier soir, l'une d'elles a été révélée. Bon. Ça s'est arrêté pour une seconde, mais je suis sûr que vous avez saisi cela. En effet, le Saint-Esprit a fait ressortir ce qu'il en était, l'enfer éternel. Une telle chose n'existe pas dans la Bible. Il n'existe pas d'enfer éternel. Si vous aviez un éternel, si vous deviez brûler en enfer pour l'éternité, alors il vous faudrait avoir la vie éternelle pour y demeurer, si vous êtes vivant. Et il n'existe qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Voyez. Ainsi donc, la Bible ne parle pas d'un enfer éternel, elle parle d'un enfer perpétuel. Ça, c'est peut-être 10 milliards d'années, je n'en sais rien, mais cela aura une fin. En effet, il fallait que je présente cela. Je me suis abstenu de présenter cela aux églises et tout, jusqu'à ce que il me revient de présenter cela. Aussi, il y a ici plusieurs choses qu'il me revient de présenter. Nous découvrirons donc ces choses au fil des soirs. Mais maintenant, à partir de ce soir, activez votre pensée spirituelle. Voyez-vous, laissez le Saint-Esprit faire pénétrer cela. Et si, après avoir entendu, vous n'êtes pas d'accord avec cela, repartez simplement et dites, « Pauvre frère Branham, il ne sait certainement pas. Je prierai pour lui. » Faites cela, et alors je vais. Le Seigneur me fera alors connaître ce qu'est la vérité. Mais soyez simplement compatissant vers moi, et ne me rejetez pas. Ainsi donc, il se peut aussi que ce soit vrai, mais, oh, je passe vraiment des moments merveilleux à le voir de cette façon. Donc, ça fait que tout concorde bien, et il se peut que je me trompe, mais il pourrait y avoir une faille, là, quelque part, dont j'ignore tout, alors que vous le savez peut-être. Priez que le Seigneur me montre cela. Bon, par-dessus tout, priez continuellement les uns pour les autres, et ne laissez jamais le diable susciter l'amertume sur quoi que ce soit. Voyez, gardez vos âmes pures en cette heure, car nous sommes dans les dernières heures de l'histoire de ce monde. Voyez, nous sommes à la fin, mes amis, sans l'ombre d'un doute. Au fur et à mesure que nous avancerons dans ces âges de l'Église, nous verrons très bientôt, nous en aborderons peut-être même une bonne partie ce soir. Ce que nous faisons, plus ou moins, c'est un retour en arrière pour avoir le contexte qui nous permet de faire des conclusions. Et ce soir, nous révélerons des choses vraiment spirituelles. Souvenez-vous, comme je l'ai dit, vous devez activer votre pensée spirituelle, mais observez les Écritures. Il faut que ce soit dans les Écritures, et il faut que ce soit d'un bout à l'autre des Écritures. Voyez. Or, souvenez-vous là, juste la connaissance de la parole, le fait de dire, eh bien, j'ai fait des études secondaires, j'ai étudié dans une école biblique, j'ai fait des études universitaires, ça ne veut rien dire. Tous les pharisiens et les sadducéens avaient fait la même chose, et ils ont manqué d'un million de kilomètres de reconnaître Jésus. Voyez, les Écritures, la révélation des Écritures est cachée aux yeux des sages et des intelligents et révélée aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. Alors, vous et moi, soyons des petits-enfants, vidons notre cœur et disons, Seigneur, toi, parle-nous et nous écouterons, puis saisissez l'application spirituelle. Maintenant, souvenez-vous-en, les mots qui seront dits à partir de ce soir, saisissez-en l'application spirituelle, parce que nous abordons un grand et mystérieux âge de l'Église. Bon, je pense que c'était tout. Souvenez-vous donc de demain soir. Nous abordons chaque soir un autre âge de l'Église. Et je suis sûr que nous pourrions avoir amplement de temps demain pour parler de ce sujet toute la journée, et demain soir aussi. Mais voyez-vous, beaucoup seront au travail, et je m'efforcerai de toucher les points principaux de ce message, de traiter des points saillants dont il est question ici. Or, chacun d'eux pourrait très bien faire l'objet d'un long développement. En pourrait-on parler à n'en plus finir, voyez-vous. Mais étudiez donc cela à la maison. Je prierai pour vous et vous priez pour moi. Et que Dieu nous bénisse tous en tant que ses enfants qui croient. Maintenant, avant de commencer, je me demande si ce ne serait pas trop vous demander de vous lever. Savez-vous pourquoi j'aime me lever pour prier? Jésus a dit, « Lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Dites, « Notre Père qui es aux cieux, alors pardonnez-vous les uns les autres. » Voyez-vous? Et une fois, Gédéon a choisi son armée en séparant ceux qui s'étaient baissés, s'étaient mis à genoux et avaient lapé l'eau, de ceux qui s'étaient tenus debout et avaient porté l'eau à leur bouche. Vous voyez? Alors, ceux qui s'étaient prosternés, qui avaient fléchi le genou devant les idoles, ces hommes-là, ils savaient qu'ils n'étaient pas aptes à partir. Donc, celui qui s'était tenu debout, le regard constamment aux aguets, et c'est ce que nous faisons, nous nous tenons debout pour prier. Bon, je crois aussi au fait de s'agenouiller pour prier, mais je pense que se tenir debout pour prier signifie vraiment quelque chose pour nous. Courbons la tête maintenant et que chaque cœur soit aussi incliné. Bienveillant Père Céleste, alors que nous nous approchons solennellement de ton trône de justice maintenant, nous ne venons pas pour te demander de nous faire justice, parce que nous serions tous consumés, mais nous venons en implorant ta miséricorde, ô Seigneur. Déverse sur nous ce soir ton Saint-Esprit, pas parce que nous sommes dignes, mais parce que nous sommes indignes, et que nous en sommes conscients et le reconnaissons, et que nous ne venons pas en notre propre nom, puisque ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas de justice ou rien. Notre plus grande justice serait des vêtements souillés à tes yeux. Nous venons donc humblement au nom du Seigneur Jésus et mettons ce dernier devant nous. Nous appliquons sur notre cœur le sang de son alliance et nous disons, ô Dieu, sois miséricordieux envers nous, les pécheurs, nous qui implorons ta miséricorde à l'heure de la détresse. Afin qu'un jour, quand le dernier sermon aura été prêché, nous ne savons pas quand ce sera, la dernière fois qu'un cri retentira dans les airs, la Bible sera fermée et posée sur la chaîne, les armes seront entassées, le signal de la retraite se fera entendre, le soleil se couchera. Ô Dieu, alors cache-moi à cette heure-là, au rocher des âges. Nous voyons maintenant qu'il n'y a pas d'échappatoire si ce n'est par toi. Nous voyons les nations se disloquer. Nous voyons la Bible s'accomplir. Nous voyons Israël se réveiller. Nous voyons le message adressé à l'Église. Et l'heure est presque écoulée au moment où de grandes choses doivent être révélées, ainsi que l'ouverture des sept sceaux. Dieu, ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Nous implorons la miséricorde. Et en tant que ton serviteur, j'implore la miséricorde pour tous ceux qui sont dans la présence divine ce soir. Dieu, qu'il n'y ait pas une seule personne parmi nous qui ait le péché dans son âme, mais qu'elle soit purifiée à l'instant même par le sang du Seigneur Jésus, afin que nous puissions tous nous rencontrer dans cet endroit béni, là-bas, au-delà du ciel. Alors que j'aborde ce passage de l'Écriture ce soir, Père, oh, j'en suis incapable par moi-même. Oh Dieu, aucun d'entre nous n'en est capable. Nous admettons que nous ne savons rien, Père, mais que nous dépendons solennellement du Saint-Esprit, afin qu'il nous en donne la révélation. Alors que nous servons des capacités mentales que tu nous as données pour examiner l'histoire, puisse le Saint-Esprit en donner l'application spirituelle à notre cœur. Accorde-le, Père, car nous nous attendons à toi, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
In the second chapter of the book of the Revelation and the second church, the third church age, begin. Pardon me.
Dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, la deuxième église, le troisième âge de l'église, à partir, excusez-moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te demandons d'être avec nous, Père, de nous bénir et de nous aider à être de sages architectes en cette heure où les gens sont dans une grande angoisse. Alors que règne la confusion et tout, aide-nous à être au mieux de notre forme, Seigneur, à être tes serviteurs, par le nom de Christ. Amen. Eh bien, j'ai dit cela dans un premier temps, pour que vous le sachiez. Avez-vous remarqué que l'interprétation n'est pas venue selon l'ordre de la parole? Notre sœur était sans doute ointe du Saint-Esprit, mais elle a donné le message après que la parole a commencé. Voyez-vous, c'est légèrement en décalage par rapport à l'ordre des choses. Alors, chère sœur, ou qui que vous soyez, ça ne pose pas de problème. C'est le Saint-Esprit qui était sur vous. Oh, c'est si difficile de se contenir, je le sais. C'est exactement comme, ou quand vous dites une chose ou une autre et, voyez-vous, mais ça ne pose pas de problème. Mais vous l'avez probablement senti avant même que nous commencions, voyez-vous. Et voyez, c'est pour ça que ça revient quand l'Esprit est à l'œuvre. Les esprits des prophétiseurs sont soumis aux prophètes, voyez-vous. C'est-à-dire, vous. Maintenant, peut-être que le Saint-Esprit vous oindra de nouveau. Juste, j'espère qu'il le fera, tout de suite à la fin du service. Et vous verrez l'interprétation venir, voyez, parce que ça devrait se faire parfaitement dans l'ordre, voyez-vous. Mais c'est que nous venions juste d'aborder la parole, voyez-vous, ici. Ainsi donc, ça venait vraiment de Dieu. Ça l'était vraiment. Je le crois, et je le sens de tout mon cœur, parce que j'en ai ressenti l'effet, voyez-vous. Mais le Saint-Esprit, ce n'était pas le moment approprié. Il a un message pour que la sœur le donne à l'Église, mais c'est ici qu'il transmet son message, en ce moment. Voyez-vous, il ne s'embrouille pas, il met tout en ordre. Je suis certain que tout le monde comprend, voyez-vous, c'est tout à fait juste. Maintenant, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, et que ce soir, nous commençons l'âge de Pergame, au chapitre 12. Bon, hier soir, on s'est arrêté au verset 11. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Bon, dans le premier âge de l'Église, nous avons vu le début des Nicolaïtes. Dieu s'est révélé comme Jésus s'est révélé en tant que Dieu Tout-Puissant, pas un autre, pas une partie, pas une portion de Dieu. Il était le seul et unique Dieu. Bon, dans l'âge de l'Église d'hier soir, nous avons vu qu'il s'est tenu à la porte et qu'il a écrit des choses à l'Église. Il leur a parlé de leur pauvreté, mais il a dit qu'ils étaient qu'ils haïssaient ces Nicolaïtes et tout. Hier soir, ils étaient les censés recevoir la couronne du martyr. Il leur a dit de ne pas avoir peur jusqu'à la mort, qu'il serait avec eux. Et à la fin, il a dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Or, s'il y a une mort, et celle-là, nous savons ce qu'il en est, alors il doit y avoir une autre mort quelque part, parce qu'une mort, on la subit ici, dans la chair. La seconde mort, on la subit dans l'esprit, dans l'âme. C'est-à-dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mourir, c'est juste d'être totalement séparé de tout. Voyez-vous, vous êtes. La mort signifie être ôté, c'est être emporté, être caché. Ainsi, quand nos bien-aimés meurent, ils cessent d'exister, pour autant que l'on sache. On appelle ça la mort, mais le chrétien ne meurt pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui affirme qu'un chrétien meurt, puisqu'il a la vie éternelle. Quand un pécheur meurt, c'en est terminé pour lui, et son âme finira par mourir. Mais quand un chrétien meurt, il ne fait qu'attendre auprès de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne de nouveau. Oh, j'espère que j'aurai le temps d'aborder cela à la fin de cette vision ce soir, cet aspect qui traite de notre retour. Et vous verrez cela, que ça nous ramène à cette même chose, la seconde mort. Ce même chapitre que nous voyons ce soir nous ramène à la même chose, et il s'agit ici d'une merveilleuse application de cela. Maintenant, ce soir, nous lirons cette lettre rapidement, parce que j'ai quelques informations historiques qu'il nous faut d'abord traiter, et je tâcherai de ne pas vous garder trop longtemps. Maintenant, une fois que cette série de réunions sera terminée, s'il m'arrive de lire ces choses trop vite, si vous souhaitez en avoir les références, Frère Mercier, que voici, lisera toutes. Je lui remets toutes les notes. Alors, ce serait possible, parce qu'il rédige le livre. Il pourrait vous donner tout ce que vous savez, que vous voulez à ce sujet. Ce serait très bien, Frère Mercier.
12 verse, unto the angel of the church of Pergamos.
Le verset 12. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine. C'était des œuvres là-bas, à Éphèse. Maintenant, c'est devenu une doctrine, la doctrine des Nicolaïtes. Vous souvenez-vous que je vous en ai parlé l'autre soir? Comment on en était arrivé là? Des œuvres à Éphèse, on en arrive maintenant à une doctrine. La doctrine des Nicolaïtes. Chose que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les, pas la véritable Église, les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ceci, et nous aide alors que nous essayons. Maintenant, parlons du contexte de cette Église. C'est le troisième âge de l'Église, qu'on appelle Pergame. Et là, la période où cette Église a existé était de 312 après Jésus-Christ, à 606. Cet âge correspondait à ceci, la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'instauration du règne papal et le mariage de l'Église avec l'État. La récompense était ceci, la manne cachée, un caillou blanc. Et l'étoile, l'ange de cette Église, selon tout ce que le Saint-Esprit m'a permis de faire, j'ai choisi Saint Martin. C'est la révélation qui m'a été donnée là-dessus, après avoir lu au sujet des autres saints de cette époque-là. J'ai choisi Saint Martin parce qu'il était un homme pieux. À mon avis, il était 10 fois plus un apôtre que l'était Saint Patrick. En fait, Saint Patrick était le neveu de Saint Martin. La sœur de Saint Martin était la mère de Saint Patrick. Et Saint Martin était, bien sûr, il était l'oncle de Saint Patrick. Maintenant, il a vécu de l'an 315 à l'an 399, après Jésus-Christ. Bon, la raison pour laquelle je l'ai choisi par rapport aux autres saints de cette époque, c'est à cause de la façon dont il se conduisait. Sous l'inspiration de Dieu, je ne crois pas que, l'Église catholique ne l'a pas canonisé. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est une autre raison pour laquelle je l'ai choisi. Ah oui. Et tous ces gens que nous voyons, ceux-là qui avaient un ministère spirituel, cette église primitive les a rejetés. Là, l'église nicolaïte les a rejetés à cause de ces choses. Ils étaient spirituels. Et comme je l'ai dessiné ici, l'église était étouffée par la doctrine des nicolaïtes qui était devenue celle de la majorité. Et la véritable église était en minorité. Il en a toujours été ainsi. Et comme je l'ai dit au début, c'est Jésus qui a dit « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est pourquoi j'applique le royaume à un royaume spirituel. Et nous avons un royaume spirituel. Nous sommes si heureux de cela. Et il y a un roi dans ce royaume. Souvenez-vous, il est le roi des saints, ceux qui sont saints. Il est le roi qui les conduit. La vie de Saint Martin est l'une des vies les plus remplies de miracles que n'importe qui d'autre dans les âges de l'Église. Depuis Saint Paul jusqu'à maintenant, il a été l'un des hommes les plus spirituels. Il était l'un de ses premiers miracles, c'était tout d'abord, il était un soldat, je crois. Et puis, un jour, il passait, et il y avait quelqu'un, un homme était couché, et tremblait de froid. Et tous ceux qui voulaient, ou pas qui voulaient, mais qui pouvaient aider cet homme, passaient leur chemin comme l'avait fait le sacrificateur et les lévites, dans le cas du bon samaritain. Mais quand Saint Martin est passé par là, conscient de son devoir en tant que croyant chrétien, il avait un manteau, une cape autour des épaules. Il l'a fendu en deux avec son épée, en a donné la moitié au mendiant et a gardé l'autre moitié. Et c'est cette nuit-là que sa carrière a commencé, car Jésus-Christ lui est apparu dans une vision, enveloppé de cette même cape qu'il avait fendue en deux, ce qui accomplissait ce passage de l'Écriture. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, prenez cela comme une leçon. Quoi que vous fassiez pour quelqu'un, c'est à Christ que vous le faites. Souvenez-vous-en. Bon, vous, disons-le tous ensemble. Ce que vous faites aux autres, c'est à Christ que vous l'avez fait. Donc, peu importe ce qu'il pense de vous, c'est ce que vous pensez de lui. Voyez, c'est cela qui vous apporte la bénédiction. C'était son premier miracle et le début de son ministère. Il y a tant à dire là-dessus, mais je n'en aurai pas le temps. En fait, je veux que vous reveniez demain soir et tous les soirs. Je ne veux donc pas vous retenir trop longtemps. Très bien. Le miracle suivant dont j'ai choisi de parler ce soir, il détruisait vraiment le paganisme et il était fermement opposé à l'Église de Rome. Il était en désaccord absolu avec tous les évêques de la première Église de Rome. Il devenait mondain et ainsi de suite, et il s'opposait à eux. Il était vraiment opposé à eux. C'est un miracle qu'il ait même survécu dans des temps pareils. Bon, mais un jour, alors qu'il détruisait une idole païenne et qu'il renversait un autel païen, il y avait un arbre sacré près de cet autel païen. Il s'est mis à abattre cet arbre, et beaucoup de ceux qui étaient là s'y opposaient. Il a dit, « Si je suis un homme de Dieu, attachez-moi du côté où pose cet arbre, et que cet arbre tombe sur moi. » Si je suis un homme de Dieu, si je ne suis pas un homme de Dieu, l'arbre me tuera. Si je suis un homme de Dieu, mon Dieu peut faire tourner cet arbre pour qu'il tombe ailleurs. Tout un défi. Alors, ils se sont mis à couper l'arbre. Et au moment de sa chute, cet arbre est tombé dans le sens inverse et a tué un groupe de spectateurs. Dieu avait inversé sa chute et l'avait fait tomber vers le haut de la colline. Un miracle. Oh, il y avait tout le temps des miracles dans ces réunions. Un autre miracle dont j'ai pensé parler, c'est celui d'un bébé mort sur lequel il s'était étendu. Ce bébé était revenu à la vie après qu'il avait prié pendant un certain temps pour lui. Un autre que je trouve impressionnant, c'est celui de l'empereur. Il était sur le point de tuer certains enfants de Dieu qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et bien sûr, à l'époque, il était le bras droit de l'évêque de la première église de Rome, qui occupait en fait la fonction de pape avant d'être nommé pape. Il s'appelait D-A-M-A-S-U-R. Et tous les chrétiens qu'il parvenait à attraper pour les mettre à mort, il les mettait à mort. Et la femme de cet empereur était une païenne dont le cœur était couvert de ténèbres. Quand ce saint Martin vertueux est venu pour intercéder, la femme a prévenu son mari qu'il chercherait à intercéder en faveur de ses chrétiens pour qu'on ne les tue pas. Bien sûr, quand il a fini par le rencontrer, ça n'a servi à rien, parce que l'empereur n'était que le bras droit de ce pape. Alors, il a quand même tué ses chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais saint Martin voulait avoir une audience avec lui, mais les gardes l'ont arrêté à la porte. Eh bien, saint Martin est tombé face contre terre et resté allongé là et a prié jusqu'à ce que Dieu lui montre qu'il pouvait entrer. Quand il s'est relevé de là, il s'est dirigé vers ces portes verrouillées et elles se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et il est entré. Eh bien, c'est un récit historique. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a écrit à son sujet, un peu comme un, autrement dit, il y aurait un parti pris, si cela avait été rapporté par une église, ou tout au moins, je dirais particulièrement si c'était l'église papale, il ne mentionnerait pas ces choses. Mais voyez, l'histoire rapporte la vérité. Voyez? Et cet homme, saint Martin, s'est avancé là, en présence des gardes et tout, jusque devant l'empereur. Cet empereur ne voulait pas respecter le serviteur de Dieu. Vous savez, ce n'est pas courtois. Il a donc détourné la tête et n'a même démontré aucun respect pour lui. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a essayé de lui parler. Elle continuait de garder la tête tournée. Et Dieu a dû obliger ce païen à avoir du respect pour son serviteur. Alors, il a fait jaillir un feu qu'il a brûlé sur son siège. Et il a été contraint de se lever et de se tenir debout. Bon, ça, c'est l'histoire biblique. Le concile de Nicée, il fallait bien qu'il respecte le serviteur de Dieu. Il l'a contraint à se lever. Cela a même brûlé le siège sur lequel il était assis. Le feu a traversé son corps et a brûlé le bas du siège. Il a dû bondir de là. Dieu a une façon de faire les choses, vous savez. Ah oui. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et souvenez-vous, ce même Dieu habite au milieu de nous ce soir. C'est le même Dieu. Très bien. Puis, un autre que j'aime bien. Et après ça, je vais m'arrêter. Je n'ai quelques-uns ici, mais je... Bon, en voici un que j'ai beaucoup aimé. Un jour, alors qu'il attendait les siens, il était en prière dans son bureau. Et il était un grand homme. C'est lui qui menait cette église remplie du Saint-Esprit et qui a mis en pièces nous. Oh, il était un... les avait tous amenés à être remplis de l'Esprit, toute son assemblée. Et partout, d'un bout à l'autre du pays, des miracles, des signes et des prodiges accompagnaient les chrétiens. Voyez, Dieu parle à son messager. Le messager parle aux laïcs. Et alors, c'est ce qui arrive, voyez-vous. Il fait que les laïcs, et lui aussi, demeurent en Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit coule au sein de tout le groupe. Bien des fois, lorsqu'ils étaient martyrisés, on alignait aussi le ministre parmi eux, comme ceci, et on les tuait tous en même temps. Oh, quelles atrocités ils subissaient, ces gens-là! On les brûlait, on prenait des hommes et on les clouait avec sur des rondins. Puis, on lâchait des chiens sauvages, et on leur faisait dévorer la personne en commençant par le dos. Puis, ils lui arrachaient les intestins pendant que la personne était encore vivante. On saisissait des femmes, on retranchait leurs seins droits et on les forçait à rester là, debout, tandis que leur cœur continuait de battre. Et le battement continuait jusqu'à ce qu'elles tombent raides mortes, comme ça. On enlevait les bébés du ventre des mères enceintes pour nourrir les cochons et tout. Et on forçait ces mères à rester là pour regarder cela. Et toutes sortes de choses. Eh bien, vous ne penseriez pas que des gens qui professent le christianisme feraient ça. Mais écoutez, la Bible dit, Jésus a dit, « Il arrivera qu'on vous tuera, croyant rendre un culte à Dieu. » Souvenez-vous, le même Jésus qui a dit cela, par le même esprit, l'a encore prédit au temps de la fin. Ça se produira. Si ces autres choses sont arrivées exactement selon l'Écriture, regardez et voyez si cela ne concorde pas exactement d'un bout à l'autre de l'Écriture et de l'histoire. Dieu a dit que cela arriverait. Voici l'histoire qui dit que c'est effectivement arrivé. Dieu a dit que ça arriverait ici, et voici où c'est arrivé. Voyez, exactement. Alors, que ferons-nous quand nous arriverons à l'âge de l'église de Laodicée? Voyez, où nous en sommes maintenant, avec tous ces malheurs et ces choses qui sont prédites contre cela. Ainsi, pour revenir à ceci, il était là à prier, pendant que son assemblée attendait. Un mendiant s'est présenté à la porte et a frappé à sa porte. Il a ouvert la porte, mais il était occupé. Et il lui a dit qu'il avait besoin d'un vêtement. Il était nu et n'avait rien, il faisait froid. Et il a dit, il l'a envoyé voir le président des diacres. Le président des diacres s'est irrité contre ce mendiant et l'a chassé. Après avoir été ainsi chassé, il est revenu dire à Saint-Martin que le diacre l'avait chassé. Alors, à peu près au même moment, le président des diacres est revenu au bureau, et d'un ton assez tranchant, il lui a dit ceci, « L'assemblée vous attend, vous les faites attendre. » Mais il était en prière. Il valait mieux qu'il reste en prière jusqu'à ce qu'il se sente conduit par Dieu d'y aller. Et ce mendiant est revenu à la porte. Saint Martin a enlevé son bon vêtement à lui et l'a donné au mendiant. Puis il a demandé au président des diacres d'aller rechercher un autre et de le lui apporter. Il a donc dû aller chercher un vêtement de toute façon pour le remettre à Saint-Martin. Et il a porté ce vêtement de moins bonne qualité devant les gens au lieu de son bon vêtement. Vous voyez, cela montre bien qu'il faut donner le meilleur de ce qu'on a, donner sa vie, donner son temps, tout donner à Christ. Et si ce même esprit qui vivait en Christ vit en vous, alors votre influence dans votre voisinage et sur les gens avec qui vous traitez sera tellement semblable à celle de Christ que cela produira les mêmes choses que Christ a fait. Et finalement, il arrivait que des malades couchés sous son ombre recevaient la guérison. C'est vrai, la puissance de l'amour était tellement forte en eux. On raconte que Saint Martin, alors qu'il prêchait, vêtu de cette tunique de moins bonne qualité, toute l'assemblée a remarqué une lueur de lumière autour de lui. Ah oui, voyez-vous, parce qu'il avait fait ce qui était juste. Faites toujours ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous finirez forcément juste. C'est vrai. Il ne saurait en être autrement. Bon, là, nous voulons commencer à traiter de ceci ce soir par le canon des explications, parce que ce dont il est question ici est très profond. Maintenant, écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux épées, l'épée aiguë à deux tranchants. Maintenant, je veux vous faire remarquer qu'il se présente de nouveau ce soir par sa divinité. Chaque église revêtait un des aspects de son état glorifié. Celui qui avait 12 étoiles ou 7 étoiles dans sa main. Celui qui a l'épée aiguë à deux tronçons. Voyez, quelque chose du genre. Celui qui a les pieds d'airain, les yeux qui sont comme des flammes de feu. Il se présente en faisant référence à sa divinité. Maintenant, vous dites, où voit-on la divinité dans celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche? Eh bien, l'épée, c'est la parole. Hébreux 4, nous en avons parlé au début quand nous avons étudié sa divinité. L'épée, nous avons vu dans Hébreux 4, 12, que c'était la parole de Dieu, était plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pas vrai? C'était la parole de Dieu. Est-ce là maintenant, regardez. Vous devez saisissez ces interprétations. Maintenant, faisons une recherche sur ce mot dans Jean 1. Au commencement, au tout début, c'est la parole qui avait créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était la divinité. Et la divinité a été faite chair, et elle a habité parmi nous, n'est-ce pas? La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et voici qu'il est là, debout, celui qui était au commencement. dit ceci à l'ange de l'église de Pergame. Dis-lui ceci, je suis la parole de Dieu. Oh, dans l'Apocalypse, nous le voyons venir avec son vêtement trempé de sang, une couronne sur sa tête, monté sur un cheval blanc, et sur sa cuisse, il est écrit « La parole de Dieu ». Oh, j'aime cela. Il est la parole de Dieu. Alors nous voyons cette divinité se présenter là, au début, en montrant qu'il est la parole. Eh bien, s'il est la parole vivante, alors ceci qui est écrit dans la Bible est une partie de lui. Alors, si vous pouvez recevoir ceci comme étant une partie de lui, c'est-à-dire la parole, cette parole entre en vous par la foi et elle lui fait prendre vie parce que le « Oh, saisissez cela !» La parole entre en vous s'il s'y trouve le Saint-Esprit. Elle prend vie dès qu'elle entre et rend chaque promesse vraie. Rien. C'est pourquoi si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, parce que, quoi? Vous êtes une divinité qui parle. Le croyez-vous? C'est ce que dit la Bible. Et tout ce que vous direz s'accomplira. Si vous ne doutez pas, si vous faites en sorte que tout ce qui est du monde sort de vous, et que vous laissez le Saint-Esprit faire complètement de vous un fils ou une fille de Dieu, n'ayant rien du monde, aucune condamnation, aucun doute. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus vous, c'est Dieu en vous. Alors, vous prenez sa parole, c'est une promesse, et vous dites, « Père, c'est ta promesse. Satan, quelque chose doit arriver. » Voyez? Voyez? Or, vous ne pouvez pas faire cela tant que Dieu ne vous a pas révélé ce qu'il en est de cette situation. Voyez? Alors, quand vous savez ce qu'il en est de cette situation, là, vous pouvez déclarer, comme Jésus, il était la parole, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus, l'homme, le tabernacle, a dit, « Je ne fais rien sans que le Père me le montre premièrement. » Donc, ce n'est pas encore la parole tant qu'elle ne vous est pas manifestée. Vous saisissez? Ce n'est pas étonnant que les gens disent que les jours des miracles sont passés. La parole ne leur est pas manifestée. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire au Saint-Esprit. La parole ne leur est pas manifestée. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas voir la révélation du baptême au nom de Jésus-Christ. La parole ne leur est pas encore manifestée. Et pourtant, ils n'ont aucune référence dans les Écritures. Il n'existe aucun passage où quelqu'un a été baptisé d'une autre manière. Au sujet du Saint-Esprit, la Bible dit, « Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. » Et alors, les gens disent qu'ils ne croient pas que le Saint-Esprit a raison. Voyez, voyez-vous, ce n'est pas fait pour eux. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a, au passé, donné, viendront à moi. » Oh, que c'est beau, n'est-ce pas? Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Aucun d'eux ne sera perdu si ce n'est le Fils de la perdition. Et c'est dans ce but qu'il est né. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là, c'est là que nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. C'est beau, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous douter? Oh Dieu, ôte le doute du milieu de nous, circoncis notre pauvre cœur humain, afin qu'il n'y ait plus du tout de doute parmi nous. C'est là ma prière. Fais disparaître tout doute, Seigneur. Fais que je mène une vie douce, humble, et que je marche comme un agneau de Dieu sur la terre. Que je marche comme il a marché, que je parle comme il parle, que mes motifs soient comme ses motifs, que les autres voient Jésus en moi. Que je perde ma vie, Seigneur, pour la retrouver en toi. C'est cela, que je perde effectivement ma vie pour la retrouver en toi. Tellement enveloppée en Christ qu'il n'y a plus de place pour le doute, mais seulement pour ce qu'il dit. Maintenant, là, ne vous mettez pas à dire, gloire à Dieu, alléluia, loué soit Dieu. Vous voyez ce que je peux faire? Gloire à Dieu, vous ne l'avez pas encore. Lui, il n'a pas agi ainsi. Non, bomber le torse et dire, « Voyez ce que je peux faire? Oui, monsieur, je suis seul. Non, il n'a jamais accepté qu'on le loue pour rien au monde. Il donnait la louange à Dieu et marchait avec humilité et douceur. Et il y avait autour de lui une telle atmosphère que les gens aimaient simplement être près de lui. Seulement ses ennemis, et il les aimait tellement qu'il priait pour eux constamment, tout le temps. Et c'était là un exemple pour vous, un exemple pour moi, afin que je traite les autres comme il nous a traités. Maintenant, nous voulons de nouveau faire remarquer ici, au verset 2, ce serait le verset 13. « Je connais tes œuvres et je sais où tu demeures. Je sais que le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Voyez, il demeurait là où Satan avait son trône. Elle gardait quand même le nom de Jésus. Voyez, et tu n'as pas renié ma foi. Quel genre de foi leur a-t-il donné? La foi de la Pentecôte, au début. Là, il y avait la foi des Nicolaïtes, une organisation religieuse et tout, qui s'établissait. Une organisation religieuse qui prenait forme. Mais il a dit, tu t'es éloigné de cela, tu as haï cela. Et moi aussi. Et tu n'as pas renié mon nom. Tu n'es pas allé après leur petite secte et tout. Tu t'en es tenu strictement à mon nom. Et tu continues de garder ma foi, comme il en était au début. Oh, j'aime ça. N'a pas renié ma foi, même comme ceux au jour, je pense que ça se prononce A-N-T-I-P-S, dont il passe, mon témoin fidèle, qui était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je vais m'arrêter là juste un instant. Le trône de Satan. Nous voulons bien faire pénétrer ces choses. Je veux que vous saisissiez cela. Prêtez bien attention maintenant. Le trône de Satan. Eh bien, de la Genèse, Dieu indiquait où se trouvait le trône de Satan. Et c'était à Babylone. C'est là qu'a toujours été le trône de Satan. Et c'est la même chose dans l'Apocalypse. Mais si vous remarquez, Babylone est passée de païenne à papale. Et maintenant, dans les années précédentes, ou juste avant que ceci se produise, quelques années, le trône de Satan a été bâti, le grand, je pense que vous lui donneriez le nom de roi prêtre des Chaldéens. La hiérarchie de Babylone a déménagé son trône quand les Perses le poursuivaient, et il a quitté Babylone. Il s'appelait A-T-T-A-L-E, Attal, le grand roi prêtre de Babylone. Quand les Perses sont entrés, se sont emparés de Babylone et ont chassé les Chaldéens, Attal, le roi prêtre, s'est enfui et a établi son trône à Pergame. Tu demeures là où se trouve le trône de Satan. Vous saisissez? C'est pour cela que je remonte dans l'histoire de l'Église, pour relever ces faits historiques et voir où ceux qui avaient cours quand ils disaient « Tu demeures là où se trouve le trône de Satan ». Je me suis dit, eh bien, où cela pourrait-il être, ce trône de Satan? Puis j'ai découvert que ce grand roi, après avoir fui les Perses victorieux qui avaient pris le pouvoir, selon la vision de Daniel, il est venu dans cette ville romaine de Pergame et y a établi son quartier général. Satan a déplacé son quartier général de Babylone à Pergame, où, dans le futur, il fonderait la nouvelle Babylone. Oh là là! Maintenant, vous comprenez le contexte et vous voyez où nous en sommes. Très bien. Alors c'est là qu'il a martyrisé ce merveilleux frère, qui a été martyrisé là-bas, Antipas. Puis il a changé de stratégie. Tout d'abord, il était un persécuteur des chrétiens. Oh, comme il haïssait le christianisme. Et il était lui-même un roi prêtre, païen par nature, bien sûr. Ensuite, il a changé d'attitude et s'est uni avec Constantin. Constantin a toujours été considéré, et l'est encore aujourd'hui par la papauté, comme l'ancêtre des chevaliers de Colomb, et donc celui qui a instauré le serment ensanglanté. Toutefois, Constantin, je dis ceci avec respect et révérence, d'après mes lectures des récits historiques, ne s'est jamais converti. Bon, un soir, il avait eu un songe, d'après lequel, s'il avait vu une croix, et s'était dit que c'est grâce à cela qu'il gagnerait la bataille. Et, à cause de cela, il avait promis qu'il soutiendrait les chrétiens et qu'il deviendrait chrétien, si les chrétiens priaient pour qu'il gagne cette bataille. Et je me suis tenu là, près du pont où il, de l'autre côté de leur pont, il s'était endormi et avait eu ce songe. À son réveil, il avait peint une croix blanche sur son bouclier et sur ceux de tous ses guerriers. Et c'est ainsi que sont nés les chevaliers de Colomb, qui sont sous la domination catholique romaine. Mais il n'a jamais rien fait de religieux. La seule chose qu'il a faite, d'après les récits historiques que j'ai pu consulter, c'est qu'il a fait placer une croix au sommet de l'église Sainte-Sophie. Mais il était un politicien, et comme il était l'empereur de Rome à cette époque-là, ce prêtre païen et lui se sont unis pour mettre en place, à cette époque-là, une religion tiède appelée le nicolaïsme, ce christianisme qui penchait vers une prêtrise. C'est ce qu'ils voulaient avoir dans leur église, comme nous l'avons vu dans les études futures de l'église d'Éphèse, et ainsi de suite, de Smyrne. Ce sont ces nicolaïques-là. Là, les nicolaïtes étaient devenus pas une œuvre, comme ça l'était là, au départ. Mais là, c'était une doctrine. Et là, c'était une œuvre. On essayait juste d'introduire cela. Mais ici, dans le troisième âge de l'église, c'était devenu une doctrine. De grands prêtres, des hommes importants. On ne les appelait pas encore des papes, là. Mais on les appelait, par exemple, archevêques. Des hommes importants, vous savez, renommés. Et leur doctrine était formaliste. Ils s'éloignaient de l'Église remplie de l'Esprit et conduite par le Saint-Esprit. Ils faisaient en sorte qu'ils soient en minorité et les traitaient d'hérétiques, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux là-dessus, avoir de grandes dénominations. Mais l'Église voulait conserver sa liberté, demeurer sous la juridiction de la puissance du Saint-Esprit, puisque Christ leur avait promis qu'il serait avec eux, et c'est lui qui était leur roi. Oh, leur roi! La véritable Église n'a jamais changé d'attitude, qui consiste à ne pas se laisser diriger par un conseil de je ne sais pas quel nom vous donnez à ces gens-là, cardinaux, évêques, papes, personnes infaillibles. Nous croyons qu'il y en a un seul qui est infaillible. Il est notre roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est avec nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit. C'est Dieu en nous qui vit parmi nous, nous conduit et nous dirige vers les eaux de la vie, et qui se fait connaître, qui a montré, comme il l'a fait au milieu des saints et des martyrs de la première heure, qu'il était le Seigneur Dieu de la création, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en donnant des visions et en chassant les démons. Pas une seule fois, je n'ai pu trouver quoi que ce soit de tous les évêques de l'Église nicolaïte qui ont formé la hiérarchie de Rome, le pape. Pas une seule fois dans l'histoire, on ne voit aucun de ces évêques ressusciter les morts ou quelque chose de ce genre, parce que Christ, la résurrection, n'était pas dans leur cœur. Ils se sont unis et ont opté pour la dénomination. Ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Mais l'Église du Dieu vivant avait la puissance de Christ. L'autre Église avait des dignitaires en son sein. Mais la véritable Église s'en est tenue à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, alors Constantin, pour consolider son empire. Voici ce qu'il a fait. Il a opté pour les Nicolaïtes. Il est allé vers eux. C'était juste une forme de christianisme. Le comprenez-vous bien? Ils étaient des soi-disant chrétiens. Ils professaient être chrétiens sans avoir le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais que cela pénètre profondément, afin que vous ne l'oubliez jamais. Voyez, c'était des chrétiens dénominationnels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Ils étaient chrétiens de nom, ils étaient chrétiens par leur rassemblement. Ils prenaient la communion, ils gardaient les ordonnances, mais ils avaient rejeté la conduite du Saint-Esprit. Les signes et les prodiges ne les accompagnaient pas. Ils affirmaient que ces choses étaient du passé, qu'il leur fallait établir une église qui devait régner. Dans un instant, nous verrons de quel genre de règne il est question. Voyez? Là, il fallait donc que l'église conduite par le Saint-Esprit s'éloigne de telles choses. Mais quant à Pergame, ceci s'adressait entièrement à l'ange de l'église de Pergame. Voyez-vous? Puisqu'à ce moment-là, il était de son devoir de le faire. Mais ce qui intéressait Constantin, ce n'était pas le christianisme. Ce qu'il voulait, c'était d'y introduire ses ancêtres païens, son église païenne. Laodicée, qui s'est enracinée et, ou le nicolaïsme, s'était enraciné et ancré dans Rome. Il avait beaucoup de succès et bon nombre de gens étaient des croyants chrétiens, soi-disant. Des formalistes. Et la véritable Église était en minorité. Elle l'a toujours été. Elle a toujours été ainsi. Je vais juste attendre un instant pour que cela pénètre très profondément. Voyez? Souvenez-vous, la véritable Église a toujours été le tout petit groupe qui était rejeté par les autres Églises. La véritable Église n'a jamais été organisée, parce que ce n'est pas un organisme, c'est le corps mystique de Jésus-Christ qui vit sur la terre, et le Saint-Esprit agit dans ses membres. Donc, vous ne pouvez pas organiser Christ, vous ne pouvez pas le faire. Eh bien, j'aimerais que vous ayez cela à l'esprit quand il sera question de l'âge de Laodicée. Souvenez-vous-en et considérez cela, parce que chaque parole que je prononce est enregistrée sur cette bande. Maintenant, souvenez-vous-en et ayez cela à l'esprit. La véritable Église de Dieu n'a jamais été organisée. L'Église catholique est la première organisation que le monde ait jamais connue. Il n'y a jamais eu d'organisation auparavant. Elle est l'Église mère, comme le disent les catholiques. Elle est l'Église mère, la mère des églises organisées. La Bible dit que c'est ce qu'elle était. On ne peut donc pas contester cela quand ils disent que c'est l'Église mère. Elle est l'Église mère. Elle est présentée dans Apocalypse 17, que nous prendrons dans un instant. Très bien. Ainsi donc, Constantin, qui avait en tête l'idée de renforcer son empire, comme Rome l'a toujours fait, afin de conserver les clés du monde, a dû se servir de ses idées païennes et des idées chrétiennes, qu'il a en quelque sorte combinées, afin de les consolider et de se bâtir un empire qui serait sans pareil. Voyez, il était en effet, c'est ce qui a fait de lui, Constantin, le plus grand dirigeant du monde. Et en ce qui concerne sa conversion, il était un politicien et non un saint de Dieu, comme certains essayent de faire de lui. Il ne l'était pas. À mon avis, il n'a jamais rien fait qui m'a semblé relever du christianisme. Ainsi donc, il a placé une croix au sommet de l'une des églises nicolaïtes. Je n'ai jamais rien vu d'autre qu'il ait fait qui semble relever du christianisme. Sauf qu'il, cette nuit-là, il a peint cela sur ses boucliers, là, en raison du songe qu'il avait eu. Les chrétiens priaient pour lui, afin qu'il remporte la bataille. Donc, son empire se trouverait ainsi consolidé. Alors, pour ce faire, il a introduit des cérémonies païennes dans l'église chrétienne nicolaïte. Je vais appeler cela la mise en place de l'église formaliste dénominationnelle. il a introduit des cérémonies païennes dans cette église nicolaïte. Et c'est de là qu'est né le catholicisme. Eh bien, mes frères, je cite l'histoire. J'ai des milliers d'amis catholiques. Ils sont tout autant mes amis que les protestants. Mais les protestants ne peuvent pas se vanter. Attendez seulement jusqu'à la fin de la soirée. Voyez, voyez. Vous verrez qu'ils ont fait exactement la même chose. La poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Voyez, parce que c'est exactement la même chose. Le même esprit s'est infiltré parmi eux. Et là, vous verrez pourquoi je condamne toujours cette chose. C'est parce que c'est faux. L'esprit même qui est en moi, si j'essaie de me taire, quelque chose en moi crie. Je ne peux pas me taire face à cela. Il en a toujours été ainsi. Ils appellent. De grands hommes, de grands conducteurs religieux m'ont dit, « Vous allez détruire votre ministère. Frère Branham, vous vous mêlez des choses, m'ont-ils dit, qui ne vous regardent pas. Dieu vous a appelé à prier pour les malades. Dieu m'a appelé à faire plus que prier pour les malades. Les malades, c'est juste quelque chose qui me permet d'attirer l'attention des gens, c'est tout. Les malades, prier pour les malades, c'est quelque chose de secondaire. Voyez, c'est du message dont il est question. Ces choses vont et viennent. Le malade, quelqu'un qui est malade peut guérir et mourir de nouveau. Mais quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu a la vie éternelle. Alors Dieu ne perd pas simplement la guérison des malades comme ça. Ce don se trouve dans l'Église au service du corps local. C'est sur quelqu'un, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Voyez, ainsi ces dons circulent dans l'Église. Mais ça va au-delà de ça. Et j'espère que vous saisissiez cela très bien. La naissance du catholicisme, pour faire ceci, attirer l'attention des chrétiens et aussi l'attention des païens, afin de les rassembler et former une seule église. Oh, j'aurais aimé avoir ça ici maintenant, le morceau de papier que quelqu'un a déposé ici l'autre soir. Je comptais l'apporter, mais je l'ai oublié. Il y a tant de choses ça et là dans le bureau là-bas. Ils font exactement la même chose en ce moment. Et vous avez mis cela en branle lorsque vous avez élu cet homme que vous venez d'élire. En ce moment, ils travaillent même à la conception d'une Bible qui ne nuira ni aux catholiques, ni aux juifs, ni aux protestants. Ils leur produiront une Bible qui les accommodera tous. Ne voyez-vous pas la ruse d'un autre Constantin? L'histoire ne fait que se répéter une fois de plus. Maintenant, voyez-vous, vous m'avez entendu lire cela l'autre soir, n'est-ce pas? Je l'ai à la maison. Ils y travaillent depuis longtemps. Maintenant, ils disent, en 1962, ils... Remarquez que le pape Jean XXII, a demandé à toutes les petites églises filles de revenir à la maison, à l'église mère. Ne vous inquiétez pas, elle le fera. Elles le feront. Elle le fera. Elles sont déjà de retour. Elles n'ont pas besoin d'y retourner. Elles y sont déjà. Comme je le disais, ce pays a dit, eh bien, si M. Kennedy est élu, les catholiques prendront le contrôle. Prendre le contrôle? Ils l'ont fait, il y a bien longtemps, et vous ne vous en êtes pas aperçu. Qui paye leurs enseignants? Comment obtiennent-ils ces choses dont les écoles bénéficient, où on enseigne le catholicisme à l'école même? Et c'est vous, les contribuables, qui payez la note. Oh, juste sous votre nez, voyez, comme ça. Oh là là, comme il a été astucieux. La Bible dit qu'il s'en emparera par des flatteries, et c'est ce qu'il a fait. Voyez, c'est vrai. Voyez, il ne paye aucun impôt. Donc, oh, il y aurait tant de choses à dire là-dessus. Je vais devoir fermer ces parenthèses et revenir à nos moutons. Pour faire fonctionner son plan, Constantin a mis en place beaucoup de divertissements mondains pour attirer l'attention aussi bien des païens que des chrétiens dans l'Église. Êtes-vous spirituel? Faites-vous travailler vos ménages? N'est-ce pas là le message de l'heure? L'Église organise des jeux de loto, des fêtes, des voitures à gagner et tout, juste pour que les gens s'entremêlent. C'est pour renforcer de nouveau sa puissance jusqu'à ce qu'il soit en position de force. juste ici. Eh bien, ça, c'est l'histoire. Personne ne la raconte dans un but intéressé. Ils ne font que rapporter ce qui s'est passé. Mais il l'a fait. Il a rassemblé l'Église au moyen des divertissements mondains afin de consolider l'Église nicolaïque. Maintenant, souvenez-vous, il ne pouvait pas toucher cette Église née de nouveau. Non, monsieur, aucun d'eux. Mais l'Église nicolaïte formaliste s'y est laissée prendre. Et qu'avons-nous dans nos églises protestantes? Des soupers où on sert de la soupe, des divertissements, du patinage, oh là là, des ventes de vieux vêtements et tout le reste, voyez? Eh bien, vous savez que c'est la vérité. Bon, si c'est la parole de Dieu, mes amis, alors c'est la vérité. Et toutes les églises protestantes sont coupables, voyez? Eh bien, ça n'a jamais été le plan de Dieu d'organiser des soupers où on sert de la soupe, des soirées de danse au sous-sol, et toutes ces choses qui se font afin de payer le pasteur et tout. Si on enseignait simplement aux gens à payer leur dîme, ce serait largement suffisant. Voilà le plan de Dieu. Mais Dieu a un plan, et pourtant l'homme veut faire son propre plan en hybridant le plan de Dieu. Très bien. Alors, c'est ainsi qu'ils se sont unis et ont formé l'Église catholique primitive, plus tard. Puis, au premier grand concile de Nicée, quand j'ai lu ça, je suis tombé sur mes genoux. Le grand concile de Nicée s'est tenu en l'an 325 après Jésus-Christ, et tous y avaient été rassemblés. Les évêques et les pères de la foi chrétienne avaient tous été rassemblés à Nicée. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle le Concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ. Et environ 1500 délégués étaient venus à la convention ou au concile. De ces près de 1500 délégués, les laïcs étaient 5 fois plus nombreux que les évêques, présents dans la délégation. Et pourtant, grâce aux nicolaïtes, froids et formalistes, et à la machination politique de Constantin, ils ont mis en minorité la véritable Église et ont remporté la victoire. Puis, ils ont installé des évêques et le Saint-Ordre des hommes, expulsant ainsi le Saint-Esprit, pour installer des évêques, des cardinaux, des papes, et ainsi de suite. La même tricherie dont a fait preuve le Parti démocrate lors de cette dernière élection. Eh bien, c'est vrai. Maintenant, nous ne sommes pas... Les républicains seraient tout aussi méprisables. Mais je parle d'une chose qu'ils ont prouvée, Edgar Hoover, en Californie, et à bien d'autres endroits. Ils avaient truqué ces machines à voter, de sorte que quand vous votiez pour M. Nixon, vous votiez forcément pour Kennedy en même temps. Ils n'avaient aucune chance. Eh bien, maintenant qu'ils ont prouvé qu'il y a eu cette fraude, pourquoi ne font-ils donc rien à ce sujet? Nous vivons dans cette heure-là, c'est tout. Nous sommes au temps de la fin. Ils le savent. Il était prouvé qu'elles étaient truquées. Et maintenant, ils ne veulent rien faire à ce sujet. Il y a eu cette tricherie à cette époque-là. Et voici qu'elle renaît pour installer une certaine personne, pour implanter une certaine doctrine. La doctrine nicolaïte, qui n'était autrefois qu'une œuvre, mais qui est maintenant devenue une doctrine. Au jour d'Al Smith, c'était une œuvre, mais maintenant, c'est une doctrine. Ah oui, ah oui.
That was a crooked outfit back there, and here's the birth of it again. To get in a certain man. To get over a certain doctrine. Nicolaitan doctrine, which was once just a deeds, now it's become a doctrine. The days of Al Smith, it was a deeds, but now it's a doctrine.
Maintenant, c'est ici, c'est sur nous. Oh, il fera un excellent président. Il n'y a aucun doute là-dessus dans mon esprit. Certainement, pour le prochain mandat, jusqu'à ce qu'il puisse rassembler, amener ces païens et ces chrétiens formalistes à se rassembler. Ils travaillent sur des Bibles, dans le but de les amalgamer. Les papes, les cardinaux, l'archevêque d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury. Je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, je lui ai parlé moi-même quand j'étais en Angleterre. Les jambières remontaient presque jusqu'aux hanches. Et, oh, un type drôlement vêtu. Mais il est allé visiter le pape. Et c'est la première fois qu'il y a une telle visite entre les deux depuis des centaines d'années. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes à la dernière heure. C'est pourquoi je suis ici ce soir, au lieu d'être sur l'estrade quelque part ailleurs, à essayer de prêcher et de prier pour les malades. Je ne peux pas tous les rencontrer sur les estrades et répéter ces messages encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons cela sur bande et en voyant cela dans le monde entier, afin qu'ils reçoivent l'avertissement et reviennent à la foi. Tout comme dans Jude, à la fin de l'âge chrétien, avant la rédaction du livre de l'Apocalypse, Jude, qui est censé être le frère adoptif de Jésus, a dit « Je veux que vous combattiez pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. » Ils avaient déjà commencé à s'en éloigner à ce moment-là, après la mort du Seigneur Jésus. Et combien plus en sont-ils éloignés ce soir, voyez? Donc, ce premier concile de Nicée s'est tenu en l'an 330-325 après Jésus-Christ. Environ 1500 délégués et évêques avaient assisté à cette réunion. Mais on n'a pas tenu compte de leur avis lors de ce concile nébuleux et tumultueux. On n'a donc pas tenu compte de leur avis et par un vote, on a permis aux Nicolaïtes de prendre le contrôle. Et cela consistait à prendre toute l'Église et à la placer sous la supervision des papes ou des évêques ou quelque chose de ce genre, à dépouiller l'Église de son pouvoir et à le remettre aux évêques, afin que les évêques dirigent l'Église et qu'ils soient les seuls à avoir voix au chapitre au sujet de cela. Avez-vous remarqué dans l'Église catholique d'aujourd'hui? Vous ne pouvez pas lire la Bible. Ce n'est pas à vous de l'interpréter, c'est à l'évêque. Vous voyez d'où ça vient? Maintenant, vous pouvez voir ce qu'étaient vraiment les Nicolaïtes avant qu'ils se mettent à se plaindre. Elle est née à ce moment-là. C'est vrai, et c'était une forme de christianisme. Ça l'est toujours. Par la suite, les protestants ont pris cela comme modèle. Dans Apocalypse 17, la Bible dit « la mère et ses filles ». Nous allons y arriver un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Bon, si vous l'avez remarqué, c'est la même chose aujourd'hui. Ils ont pris le contrôle. Maintenant, Constantin a utilisé la stratégie de Balaam. Bon. Je veux que vous essayiez de m'écouter très attentivement. Maintenant, il a dit ici, dans la Bible, ici, « Garde ma foi ». Bon, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens. Pas ceux ici, mais là. Ils ont des gens. Tu as des gens dans l'église de Pergame, voyez, qui s'attachent à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à des impudicités. Maintenant, Constantin a utilisé la même stratégie que Balaam. Il y a eu une autre réunion après cette réunion-ci, après ce concile où les évêques ont été placés à la tête des églises, et ainsi de suite, pour les diriger et dépouiller les laïcs de toute autorité. Ils avaient abandonné leur capacité de penser, et ils n'avaient pas non plus le droit d'interpréter les Écritures. En fait, l'interprétation des Écritures et toutes ces autres choses revenaient aux prêtres. Finalement, au bout d'un moment, ils ont établi un prêtre en chef, et ils, un vicaire, qui était le pape. Mais maintenant, ils en sont arrivés au point où ils disent que toute la compréhension relève du prêtre, et que l'assemblée n'a pas besoin de lire la Bible, ni de faire quoi que ce soit. Et pour tout dire, la Bible leur est inaccessible. Et maintenant, ils ont tout pris sous leur contrôle, et par un vote, cela nous a été imposé, parce que ça paraissait bien. Cela paraissait bien, parce qu'ils étaient riches et tout. Et il a donné lors de cette grande réunion où Constantin les a tous conviés, il a donné aux évêques de beaux bâtiments. Il a mis la main sur de l'argent et tous ces grands sites prestigieux, comme des bâtiments par exemple, il les a donnés à l'Église, afin qu'on puisse les utiliser comme lieu de culte. Oh, c'était de beaux bâtiments, bien ornés et tout. Et il les a donc donnés à l'Église. En plus de ça, Il a revêtu ses évêques de belles grandes soutanes, des vêtements de dessous et tout ce qui se porte en dessous. Et en plus de ça, il les a fait asseoir sur, ou a construit une tribune surélevée comme ceci et les a installés là-dessus comme une idole. Et en dessous d'eux, il a fait des autels de marbre. En dessous d'eux, il a fait tous ces changements en prenant les idées païennes, en mélangeant cela avec le christianisme, en se servant de leur évêque. Voyez, ils ont juste enlevé l'idole et l'ont remplacé par l'évêque. Voyez, ils lui ont fait un autel, la même chose, et ont fait de lui un dieu. Ils ont installé l'évêque et il avait tous les droits. Ils l'ont revêtu d'une grande tenue et ont fait en sorte qu'il avait l'air d'un dieu. Au lieu de l'installer comme leur dieu païen, ils lui ont mis un manteau, comme ce que portait Jésus. Voyez, et ils ont fait en sorte qu'il avait l'air d'une idole, assis là. Oh, vous pouvez imaginer ce que les païens en ont dit. Eh bien ça, je peux l'accepter. Il y a quelqu'un qui peut nous répondre. Nous parlions à une idole, mais cet homme peut nous répondre. Et les chrétiens se sont dit, eh bien, c'est parfait. Maintenant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, puisque voici notre Dieu. Nous pourrons lui parler, et en retour, il peut nous dire quoi faire. Si nous péchons, nous le lui dirons. Nous lui donnerons un petit quelque chose et un petit... Nous ferons une petite neuvaine ou quelque chose, et immédiatement, tout ira bien pour nous. Nous repartirons pour vivre de nouveau sans souci. On n'aura plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Oh, ça avait l'air bien, certainement. Ça l'est encore pour la pensée charnelle. Mais vous ne ferez jamais avaler cela à un enfant de Dieu né de nouveau. Ils n'ont jamais pu le faire. Car il sait en qui il a cru, et il est persuadé qu'il a la puissance de garder ce qui lui est confié jusqu'à ce jour-là. Et oubliant les choses du passé, nous courons vers le but de la vocation céleste en Christ. Amen. Oh, comme je suis reconnaissant. Assis là-haut, bien vêtu, un autel de marbre en dessous de lui, une belle église. Oh là là! Ils étaient bien pomponnés, très bien. Et cet autel était magnifiquement recouvert, cet autel de marbre. Vous devriez les voir encore aujourd'hui, c'est pareil. Cet autel recouvert d'or et incrusté de pierres précieuses, de joyaux magnifiques. C'était très convenable pour les Nicolaïtes et les païens. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il a pris les cérémonies païennes, les idées païennes, et a pris le christianisme, ceux qui étaient froids et formalistes, qui ne savaient pas faire mieux, qui n'avaient pas le Saint-Esprit pour les conduire différemment. Et il leur a fourni un Dieu ici sur la terre, leur a bâti un autel, et y a installé un Dieu pour pardonner leurs péchés. Êtes-vous spirituel? Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'il en est? Une absolution du péché sur la terre. Je n'invente pas ça, c'est l'histoire. Je peux vous donner la page et le numéro du livre de l'histoire sacrée, exactement comme je peux vous parler de George Washington, d'Abraham Lincoln, de la bataille de Gettysburg, et ainsi de suite. Bien sûr, toutes ces choses que je cite ici sont tirées de l'histoire. Bon, c'était tout à fait convenable au... Pas à cette église née de nouveau, non monsieur. Eh bien, quand ils ont placé un homme là-haut, pour qu'il soit l'évêque en chef, pour réciter des cérémonies, cela a naturellement fait disparaître le plein évangile. C'est encore le cas aujourd'hui. Ces âges ne font que se reproduire. Ils se chevauchent, vous voyez, sous une autre forme, sous un autre jour. Oh, ils ont installé un dignitaire là-haut comme un dieu pour qu'il préside à quelques cérémonies. Et remarquez que les païens priaient leurs ancêtres morts. Une église protestante qui peut se lever et dire « Je crois à la Sainte Église catholique romaine et à la communion des saints. » Vous, les méthodistes, devez en avoir honte. Les presbytériens et les luthériens, toute intercession auprès des morts, c'est du spiritisme, certainement. Mais là, le protestant ne peut pas se moquer du catholique. Il fait la même chose. Il fait cette confession entièrement suffisante qu'il croit la même chose. Son baptême l'a ramené à l'Église catholique. Son baptême d'eau, il rejette et se moque des gens qui essaient de mener une vie droite. Quand il va dans une église et qu'il voit les gens pousser des cris sous la puissance de Dieu, il reste à l'extérieur et s'en moque. tout ça. Voyez, les esprits ne meurent pas. Les gens meurent, mais pas les esprits. Voyez, le Saint-Esprit, lui, ne peut pas mourir. Il était en Jésus et maintenant il est dans son Église. Il y sera toujours jusqu'à ce qu'il revienne pour prendre son Église, parce qu'elle est une partie de lui. Voyez, en tant que persécuteurs, ils se sont moqués d'eux en ce temps-là. Et ils sont toujours là aujourd'hui. Dieu retire son homme de la terre, mais pas son esprit. Le diable retire son homme de la terre, mais jamais l'esprit. Ces sacrificateurs qui avaient approuvé la mort de Jésus, qui, selon eux, était un diseur de bonne aventure ou un démon, étaient autant religieux que tous les religieux. C'est vrai. Ils connaissaient l'Écriture à la lettre, mais ils n'en connaissaient pas la vraie interprétation. Ils avaient leur propre idée et ils ne voulaient rien entendre d'autre. Pourtant, ils l'avaient vu et savaient. Comment ont-ils manqué de voir que Jésus remplissait tout ce que chacun des prophètes avait annoncé à son sujet? Mais ils étaient aveugles. Et Dieu a dit qu'il avait aveuglé leurs yeux dans un but, afin que nous puissions avoir l'occasion d'être sauvés. Or, la Bible a aussi prédit que nous sommes dans cet âge pentecôtiste, où on est nu, misérable, aveugle, et on ne le sait pas. Voilà l'état de l'Église, Philadelphie. Oh, vous, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes formalistes, voyez, c'est ça. Parfois, quand je dis ces choses, ce n'est pas à vous qui êtes assis là que je m'adresse. On m'enregistre, voyez-vous, et je sais où cela ira, voyez. Repentez-vous! Revenez à la Bible! Revenez à Christ! Très bien, mais c'est ce qui s'est passé. Le plein évangile a été rejeté. Les miracles et les prodiges ont été interdits au sein de l'Église. Et quand le groupe des gens du Saint-Esprit a été excommunié de la communauté, ils ont alors nié qu'un tel jour existe. C'est ta sœur, et ils font la même chose aujourd'hui, exactement. Ne voyez-vous pas cet esprit-là? Comme je vous l'ai dit au début, activez votre pensée spirituelle, laissez Dieu ouvrir votre cœur. N'ayez pas de parti pris, restez assis et écoutez. Dites, Saint-Esprit, révèle-le-moi. Je le vois, voilà, c'est ça. Des cérémonies où les baptistes, les presbytériens, même les pentecôtistes, ça devient simplement une cérémonie religieuse. La seule chose qu'ils font, c'est de jouer fort du piano, quelque chose du genre, et de sautiller pendant un moment. Et dès que le piano s'arrête, brouh, une fois dehors, ils trichent, volent, mentent et tout. Mais le véritable, ils ont un tempérament colérique, capable d'affronter une scie circulaire. Et ils parlent de tous et de tout. Voyez, voilà. Pas seulement les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, mais aussi l'Église pentecôtiste, dans cet âge de Laodicée. Oh, pourquoi ne revenez-vous pas à ce que vos ancêtres avaient? Pourquoi ne revenons-nous pas à la vraie Pentecôte qui sanctifie et remplit du Saint-Esprit, qui amène Christ vers nous? C'est ça qu'il nous faut. Très bien. Bon, c'est pareil aujourd'hui. Bon, le mot « Pergame » signifie « marié ». Le mot même « Pergame » signifie « marié ». Le christianisme, c'est-à-dire l'aile des Nicolaïques, l'aile formaliste, s'est marié à l'État par des cérémonies païennes. Des cérémonies païennes. Et cela a donné naissance à l'Église catholique en ce jour-là. Bon, tout le monde sait que l'Église catholique a vu le jour au Concile de Nicée. Avant ça, Dieu l'appelait le Nicolaïsme, ce qui signifie Nicao, conquérir, vaincre ou renverser les laïcs. Et quand ils ont fait cela, ils ne voulaient pas de l'Esprit au sein du peuple, et que les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, fassent que le Saint-Esprit, vous dites, eh bien, le prêtre, ne peut-il pas être un berger? De quel genre de nourriture vous nourrit-il? Obtenez-vous les mêmes résultats qu'eux ont eu le jour de la Pentecôte? Certainement pas. Je vous salue, Marie. Qui a vu ça à la Pentecôte? Les neuvaines, toutes ces aspersions, ces déversements, les vocations d'un vieux train, Père, Fils, Saint-Esprit, où trouvez-vous ça à la Pentecôte? Jésus a dit, Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est vrai. Où trouve-t-on ces choses? C'est du nicolaïsme au départ, et cela s'est transformé en catholicisme. Maintenant, vous dites, « Eh bien, je suis bien content de ne pas être de leur nombre. » Bon, n'en soyez pas si certains, voyez. Maintenant, souvenez-vous, le christianisme, le nicolaïsme. Maintenant, comprenez-vous l'histoire? Écoutez attentivement, avant qu'on aille plus loin. Je veux que vous le compreniez, même s'il nous faut rester ici jusqu'à minuit. Alors, ah oui, donc le... Parce que, frère, il est question de votre âme. Vous pouvez dire, eh bien, je fais partie de... Ce n'est pas ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, peu importe le nombre d'églises dont vous faites partie, vous êtes perdu. Si vous n'êtes pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdu. En effet, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la seule chose que Dieu va ressusciter, parce que c'est la seule vie qui demeurera. Si un grain de maïs, comme quand j'ai cité ici, de l'heure agricole, combien se souviennent du brave frère Spurgeon, un prédicateur méthodiste là-bas à Henryville, un vieillard merveilleux. Un jour, nous étions assis près du distributeur de crème glacée chez Red Furnish, à consommer de la crème glacée, alors que nous parlions d'une série de réunions que j'avais eues là-bas. L'émission « L'heure agricole » était en ondes. Red allumait le petit haut-parleur de son poste radio qui se trouvait là. Et à un moment donné, on parlait. Bien sûr, l'émission était diffusée à partir de Louisville. Mais le club 4H s'était procuré une machine capable de produire un grain de maïs dans lequel on pouvait injecter du calcium, du pétrole et tout dans le maïs. Et faire en sorte qu'il donne vraiment l'impression d'avoir été obtenu par... Les 4H l'avaient, la science avait mis au point, et ce maïs avait l'air si naturel qu'on pouvait en prendre une poignée d'un sac récolté dans les champs et une poignée d'un sac produit par la machine, et ceci, ce que la machine avait produit, donnait le même genre de flocons de maïs, de pain de maïs. En fait, on pouvait les apporter au laboratoire et les couper en morceaux, ces grains, et il était impossible de les différencier. Les deux avaient la même quantité de pétrole, la même quantité de calcium et d'humidité. Tout ce qui se trouvait dans un grain se trouvait dans l'autre. Il a dit, le seul moyen de différencier avec certitude ceux qui avaient poussé dans les champs de ceux qui avaient été produits par la machine, c'était de semer les deux poignées. Quand les deux auraient pourri, celui qui avait été fabriqué par la machine ne germerait pas. Mais celui que Dieu avait fait pousser reviendrait la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été fécondé. Et vous pourriez avoir l'apparence d'un chrétien, agir comme un chrétien, faire toutes les bonnes œuvres que vous pouvez, rester fidèle à votre Église, mais à moins que vous soyez fécondé par le Saint-Esprit, la vie de Dieu, la vie éternelle qui vient en vous, pas par une confession de foi, mais par un don du Saint-Esprit. Comment l'obtenez-vous? Le médecin qui a prescrit l'ordonnance le jour de la Pentecôte a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit qui est la vie éternelle. C'est la seule chose que Dieu va ressusciter. C'est la seule chose qui a la vie et qu'il puisse ressusciter. Voyez, c'est la seule chose qui puisse partir. J'espère que c'est clair. Puisse Dieu rendre cela clair. Donc, ce sont les Nicolaïtes qui étaient de l'aile formaliste, et ils se sont mariés à l'église païenne. Ils ont alors fait entrer des autels païens, adoptant cela en tant qu'autel chrétien. On fait entrer un dieu païen, qui, sous la forme d'un évêque, pouvait parler et communiquer. Il était placé là, on lui a mis une soutane, et on lui a donné l'apparence d'un dieu. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur, il s'agit de ce qui est à l'intérieur. Ces deux grains de maïs avaient la même apparence. Il ne s'agissait pas de ce qui était à l'extérieur, il s'agissait de ce qui était à l'intérieur. Voyez, l'intérieur, la vie. Eh bien, ça s'est passé là-bas, et c'est là que se trouve le lieu de naissance de l'Église catholique primitive, la mère de toutes les églises dénominationnelles. Là, vous dites, eh bien, je... Frère Branham, alors, il suffit que je ne sois pas catholique. Bon, attendez un instant. En fait, arrêtons-nous ici un instant et prenons maintenant Apocalypse, chapitre 17. Juste un instant. Je suis tombé pile dessus. Maintenant, ceci est la révélation de quoi? Jésus-Christ à ses églises. Alors que je lis, écoutez attentivement. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, disant, « Viens ici, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est là sur les grandes eaux. » Maintenant, afin que je puisse avoir un témoin, combien savent qu'une femme dans la Bible, chaque fois qu'on l'utilise comme symbole, elle représente l'Église? Très bien. Combien savent que la grande prostituée, ici dans le même chapitre, est la ville qui est assise sur cette colline? Très bien. Et maintenant, combien savent que la Bible dit « les eaux » ici, elle est assise sur les grandes eaux, non pas une eau, mais des eaux. Les eaux signifient des peuples. Eh bien, prenez le chapitre 15, là, et vous verrez, voyez, le verset 15, voyez, et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des gens, des foules, des nations et des langues. » Voyez, voyez. Maintenant, cette femme était une apostate, n'est-ce pas? Bon, là, c'est de l'enseignement. Alors, vous devez mettre votre conscience de côté maintenant. Voyez, qui est cette femme impure, appelée une prostituée? C'est une femme qui est infidèle à son vœu de mariage. Or, l'Église catholique, prétend être l'épouse et la femme de Christ. Même les religieuses se coupent les cheveux et n'ont aucune affection. Toutes leurs affections sont réservées à Christ. Pas vrai? Certainement. Ou n'importe qui. Je viens d'un milieu catholique, voyez-vous. J'ai les réalités de notre foi et certains de leurs livres, et aussi ceux des protestants, des baptistes, et ceux de toutes ces choses que vous croyez, là, dans mon bureau. Donc, j'étudie cela, et quand quelqu'un dit quelque chose, oh là, je peux contester vos propres déclarations, voyez, ainsi l'heure est venue pour que ceci soit diffusé. Bon, premièrement, il fallait que Dieu agisse partout dans la nation, accomplissant des signes, des prodiges et des miracles, afin que les gens sachent. Les brebis de Dieu connaissent sa voix. Elles la connaissent parfaitement. Il faut trouver premièrement, si vous allez de l'avant pour faire quelque chose, alors qu'on ne vous connaît pas, vous ne ferez que... Que faites-vous? Vous leur faites plus de mal que jamais. Laissez ça. Laissez Dieu s'en occuper. Voyez, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Maintenant, si c'est ce qu'elle était, alors elle était une femme qui professait être quelque chose que... Elle commettait adultère. Pas vrai? Eh bien, alors, si c'était une église, elle commettait adultère contre Dieu, pas vrai? Alors cet adultère serait des impudicités spirituelles. Elle enseigne aux gens quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, pas vrai? Elle enseigne quelque chose qui n'est pas vrai. C'est du nicolaïsme. Voyez-vous comment c'est entré ici? Ils sont occupés à installer des papes, des prêtres et à ôter le Saint-Esprit. Les jours des miracles sont passés. Et pourtant la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier et éternellement. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Elle dit, Père, Fils et Saint-Esprit, aspergez, versez de l'eau. Oh là là, voyez, très bien. Regardez ce que cette femme faisait. Avec elle, que les rois de la terre se sont livrés à des impudicités. Et c'est du vin de ces impudicités que les habitants de terre se sont enivrés. Enivrés. Vous tuez, vous mettre à mort, vous tirer dessus, ou quoi que ce soit d'autre, frère. Ils sont complètement ivres de cela. Voyez? Le vin, c'est ça qu'elle donne. Voyez? Le vin de ces impudicités. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ma mère était catholique, et je vais... Très bien. Là, vous dites, c'est horrible. Maintenant, attendez un instant, les protestants. Oui, je m'adresse à ceux qui écouteront ces bondes, voyez. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, qu'est-ce que le mot écarlate dénote? Il dénote la royauté. Cela signifie, je veux dire, cela signifie ce qui est royal, loyal, royal, voyez, comme les rois, et ainsi de suite. pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Or, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la ville est assise. Et cette femme est cette ville. Nous savons cela. Cette femme était vêtue de pourpre. La femme, la bête, était écarlate. Mais la femme était vêtue de pourpre. Ne vous ai-je pas prévenu l'autre jour en vous disant qu'il y a trois rideaux? Je ne sais pas combien de temps je vivrai. Mais souvenez-vous de ceci. Comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses années, observez la Russie. Il y a trois rideaux. Souvenez-vous de ceci. Il y a le rideau de fer, il y a le rideau de bambou, la Chine rouge, et ainsi de suite, et il y a le rideau de pourpre. Observez ce rideau-là. Voilà celui qui est trompeur. Tellement... Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Vous souvenez-vous de ce que je viens de dire ici au sujet du premier autel des Nicolaïtes? Voyez, la femme qui est l'Église. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Vous souvenez-vous? L'or recouvrait l'autel, la coupe qu'elle donnait aux gens, remplie de l'abomination et des impuretés de ses prostitutions. C'est ce qu'elle donne aux gens. Ils avalaient ça. Certainement, ils en étaient ivres, complètement ivres. Toute cette bande d'Irlandais, de Français, et ainsi de suite, on vous trancherait la gorge si vous disiez quoi que ce soit contre cette Église. Bien sûr qu'ils le feraient. Voyez, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone. Eh bien, d'où Babylone a-t-elle été déplacée? De Babylone jusqu'à Pergame. Et c'est devenu... Satan a déplacé son trône. Oh, j'aurais aimé qu'on puisse étudier toute l'Apocalypse pour que vous puissiez le voir. Babylone, la grande, la mère des impudiques, une mère des impudiques et des abominations de la terre. Qu'est-ce qu'elle était? La mère des impudiques. Ceux-là n'étaient pas des fils. L'étaient-ils? Leur Église. Oui, monsieur. Il a dit, l'Église n'est-elle pas appelée Babylone dans la Bible? Voyez, dans leur propre livre. Très bien. Maintenant, si elle était une prostituée, une femme de mauvaise vie, et si elle était la mère des impudiques, elle devait avoir des filles. Et si elles étaient ses filles, elles étaient féminines, elles étaient des églises. Bon, d'où vient l'Église protestante? Pas vrai? Quelle est la différence entre une prostituée et une impudique? C'est la même chose. Martin Luther en est sorti pour changer, pour donner une chance à la véritable Église. Wesley, jusqu'à la Pentecôte, puis chacun d'eux est retourné à cette idée nicolaïte de s'organiser, d'avoir des surveillants généraux et tout le reste. Ils sont retournés exactement à ce même baptême dont ils avaient été baptisés, les mêmes formalités, les mêmes cérémoniales, et même bon nombre d'entre eux ont des catéchismes et le « Je vous salue Marie », non pas le « Je vous salue Marie », mais c'est quoi cette chose qui ressemble de très près? Le credo des apôtres. Montrez-moi le credo des apôtres dans la Bible, frère. S'ils avaient un credo, c'est Actes 2.38. C'est ce qu'ils ont ordonné à tout le monde de faire. Où avez-vous jamais entendu un apôtre donner un credo et dire « Je crois à la Sainte Église catholique romaine, je crois à la communion des saints » alors que Pierre, celui qui avait les clés, a dit « Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ ». Mais regardez les églises protestantes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas pu s'en contenter. Chacune d'elles qui sont sorties est sortie avec une bénédiction de Pentecôte. C'est tout à fait vrai. Même Martin Luther a parlé en langue. C'est tout à fait vrai. Il s'en est excusé en disant, « Oh Dieu, je marmonne ces mots horribles et je ne sais pas ce que je dis. » Voyez? Bien sûr, il y croyait. Certainement que oui. Bon. Tout au long des âges, l'esprit était avec eux, mais ils s'éloignaient toujours et formaient des organisations après la mort des premiers fondateurs. Si vous aviez laissé l'Église luthérienne continuer sans l'organiser, elle aurait été pentecôtiste. L'église pentecôtiste, qu'est-ce que c'est? Je veux dire les véritables pentecôtistes, pas la dénomination, là. Ce serait comme la poêle et le chaudron, une fois de plus. Voyez, mais ils ont fait la même chose, et cela les a ramenés au nicolaïsme, exactement comme il en a été au commencement. Combien voient ça? Dites « Amen ». C'est vrai, bon, c'est juste pour que j'entende votre voix et que je sache que vous voyez une mère de prostituées. Si ce sont des prostituées, comment sont-elles devenues des prostituées? En se livrant à des impudicités à l'égard de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ » et que dans la Bible, tous ont été baptisés au nom de Jésus. Mais vous, vous prenez Père, Fils et Saint-Esprit. C'est de la prostitution, pas vrai? Et si dans la Bible, le baptême se fait par immersion, du mot grec « baptizo », alors d'où vient-il que vous aspergez et versez de l'eau? Où avez-vous trouvé cela? Si vous substituez au Saint-Esprit une poignée de main ou le dépôt de l'hostie sur vos lèvres afin de l'avaler ou quelque chose de ce genre, alors que le Saint-Esprit est venu du ciel comme un vent impétueux et a rempli les gens et les a fait parler en langue et pousser des cris et se conduire comme des gens ivres, et que vous y substituez une poignée de main ou la remise de votre lettre à une église ou quelque chose de ce genre, comment cesserez-vous un jour de vous livrer à des impudicités spirituelles? Maintenant, posez-vous simplement la question, secouez vos esprits, ouvrez votre cœur et soyez honnêtes, frères. Nous sommes au bout du chemin. Ces réunions ne sont pas organisées ici en vain. Elles avaient été ordonnées de Dieu. Je le crois aussi certainement que je... Vous croyez que je suis son serviteur? Je le dis au nom de Jésus, que Dieu a mis sur mon cœur de venir ici. Je ne reçois pas un sou pour le faire. J'aurais pu être quelque part, là-bas, en train de prier pour les malades, ou quelque chose de ce genre, ou j'aurais pu être à la pêche, au loin, et continuer de recevoir mon salaire. Je reçois un salaire de l'Église. Mais Dieu a mis cela sur mon cœur. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Cela crie sans cesse en moi, et je fais tout mon possible. Je suis ici au nom du Seigneur. Et je fais tout mon possible. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête. Maintenant, vous, les protestants, voyez-vous ce que j'entends par Église catholique et Église protestante? C'est simplement, l'une est pareille à l'autre. C'est tout à fait vrai. Bon, cela signifie marié. Pergame signifie marié. Maintenant, prenons, il a dit, il y a parmi vous des gens attachés à la doctrine de Balaam. Prenons juste ça. Avons-nous le temps? Je vais faire aussi vite que je peux. Ou préférez-vous attendre et voir si nous pouvons revenir demain matin? Combien préfèrent que nous continuions juste encore un peu? Que, bon, très bien, je sais qu'il fait chaud ici. Si vous, qui êtes assis, vous avez chaud, imaginez un peu ce qu'il en est ici devant, voyez-vous. Mais, oh là là, nous essayons de nous éloigner de cet endroit qui est chaud. Voyez, c'est ça, car nous sommes éternels. Bon, là, bien sûr, lorsqu'ils ont fondé une église comme celle-là, que s'est-il passé? Maintenant, écoutez attentivement, mes enfants. Que s'est-il passé? Oh, bien sûr, cela a expulsé le Saint-Esprit de l'église. Ce n'est pas étonnant qu'aucun de leurs évêques n'ait ressuscité des morts ou accompli des miracles. Ils prétendent que certains de ces saints font partie de leur église. Ils ont protesté contre cela. Mais il les revendique. Regardez Jeanne d'Arc, cette jeune fille. Je vous demande à vous, les catholiques, ou à vous, les protestants, à n'importe lequel d'entre vous. Jeanne d'Arc, à son époque, il n'y avait en France rien d'autre que l'Église catholique qui réprimait les saints. Mais Dieu agissait à travers cette fille, et elle avait le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait prédire des choses. Le Seigneur lui donnait des visions, et elle prédisait. Elle priait pour les malades. Elle a prié pour un petit bébé mort, et il est revenu à la vie. Ça, c'est du pentecôtisme, voyez. Et qu'est-ce que l'Église catholique lui a fait? Étant donné qu'elle protestait contre l'Église catholique, ils lui ont fait un procès, et ils l'ont brûlée sur un bûcher comme sorcière. Et maintenant vous dites, sainte Jeanne d'Arc, environ 200 ans plus tard, quand l'Église s'est rendue compte de ce qu'ils avaient fait, qu'elle était une sainte. Oh, bien sûr, ils se sont repentis de cela. Ils ont déterré les corps de ces prêtres qui avaient approuvé sa mort et les ont jetés dans la rivière. Pensez-vous que cela lavera ce sang de ses mains? La Bible dit, le sang de tous les martyrs fut trouvé en elle. C'est ce que l'ange du Seigneur a dit, qu'il était trouvé à Babylone. Chaque meurtre où chaque martyr et tous les saints de Christ qui ont été martyrisés ont été trouvés ici même, depuis l'âge des Nicolaïtes jusqu'à ce jour. Tous les martyrs, pensez-y. Merci, frère Ben. Bon, pensez-y. Bon, allons un peu plus loin. L'Église chrétienne s'est mariée à Babylone. Pergame signifie le mariage. Maintenant, la doctrine de Balaam. Il y a chez toi des gens qui ont la doctrine de Balaam. Oh, j'aime vraiment ces choses. Oh, si vous pouviez rester un peu plus longtemps sur l'un d'eux, voyez. Mais vous, nous voulons que vous le voyez pour ensuite passer à autre chose. Parce que c'est simplement rempli de pépites d'or. Je suis un prospecteur. J'aime bien creuser et déterrer ces pépites, les faire briller, les polir comme ça et les regarder. Et chacune d'elles reflétera Jésus-Christ. Chacune d'elles, voyez, chacune d'elles reflète Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Chaque carat d'or de la pépite. C'est vrai, il l'est d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'il est la divinité faite chair parmi nous. Maintenant, pour en arriver, je ne prendrai pas le temps de traiter de ceci, parce que je vois qu'il est 21h, et j'ai une autre chose que je veux traiter ce soir, si Dieu le veut, et je veux que vous preniez ceci en note, et que vous le lisiez demain, que vous notiez nombre 22 à 25. Je veux donc que vous lisiez cela, afin de pouvoir être sur la même longueur d'onde que moi. C'est donc nombre 22 à 25. Nous savons qu'Israël, Israël était le peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? Ils étaient des pentecôtistes. L'Esprit agissait parmi eux. Vous souvenez-vous du message d'hier soir? Comment Moïse, après avoir traversé la mer Rouge, ou la mer Morte, a vu derrière lui cette mer Rouge remplie de sang, du sang qui représentait tous les chefs de corvée qui les avaient flagellés, lui et tous les enfants d'Israël. Moïse a levé la main et a chanté par l'Esprit. Oh, chacun d'entre nous peut être un Moïse. Quand nous regardons en arrière dans le sang rouge du Seigneur Jésus et que nous voyons chaque vieille ivrogne, chaque bouteille, chaque femme vulgaire, chaque chose répugnante que nous avons pu faire dans notre vie, tout ça est mort et dans le sang du Seigneur Jésus. Ça nous fait chanter par l'Esprit. Les cigarettes, le tabac, les mauvaises habitudes et tout le reste sont morts et dans le sang du Seigneur Jésus. Alors, nous pouvons lever la main et chanter par l'Esprit. Voyez, regardez ce que Myriam, la prophétesse, a fait. Or, souvenez-vous, elle était une prophétesse. Elle a pris le tambourin et s'est mise à battre le tambourin et à danser par l'Esprit. Et les filles d'Israël l'ont suivie sur le rivage en battant ses tambourins et en dansant par l'Esprit, de véritables pentecôtistes. Et si vous remarquez par la suite, ils sont arrivés à Moab. Là, nous faisons un retour en arrière. Là, nous sommes dans les Écritures, la doctrine de Balaam. Et Moab était le frère d'Israël. Combien savent d'où vient Moab? Très bien. Moab, c'est ce que j'appellerais un hybride, parce que ce Moab tire son origine des filles de Lot. Lot a eu un enfant avec sa propre fille. Il a eu deux enfants, et Moab était l'un des deux. C'est lui qui a formé la nation qu'on appelle Moab, la tribu. Et en fait, Lot était un neveu d'Abraham. Cela revient à dire qu'il est en fait de cette même lignée. Nous savons ça. Là, je veux vous faire remarquer qu'ils n'étaient pas des païens, comme certaines de nos récentes pièces de théâtre vous feraient. Souvenez-vous-en, c'était des croyants. Bon, voici donc Israël qui était en route vers le pays promis. Ils avançaient tout droit sur le chemin du devoir, et devant eux se trouvait Moab. Ils ont envoyé des messagers à Moab pour dire, « Laisse-nous passer par ton pays, nous sommes frères. » Bon, Moab représentait les Nicolaïtes. Eh bien, vous le verrez dans un instant, Israël représentait la véritable Église. Et Balaam était l'un des évêques, des papes. Regardez et voyez maintenant le christianisme charnel. Maintenant, nous voyons qu'il avait un don. Il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup d'entre eux sont d'excellents orateurs, des docteurs en philosophie, de grands hommes. Vous ne pouvez pas nier ça, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Retournez à la Pentecôte originelle. Ne vous en éloignez pas. Si vous le faites, vous êtes perdu. Restez avec cette bénédiction. C'est ça, celui qui bénit, la bénédiction. Maintenant, observez bien leur voyage. Ils sont arrivés à cette église hybride et formaliste. Et ils ont dit, « Nous passons par ici pour aller à un réveil. Nous allons là-bas, au pays promis. Nous permettez-vous de passer? Si notre bétail broute de l'herbe, s'il boit de l'eau, nous vous payerons pour cela. » Alors, qu'est-ce qu'il a? Le roi Balak, il s'est affolé et il ne voulait pas d'une réunion comme celle-là dans son église ou dans son pays. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé chercher le pape ou l'évêque, Balaam, un prophète mercenaire qui aimait l'argent plus que Dieu. Et le roi Balak lui a dit, « Si tu viens ici et que tu maudis ce peuple, je ferai de toi quelqu'un d'important. » Et Dieu a parlé à Balak. Et je me demande s'il n'y aurait pas quel, je veux dire, Balaam. Je me demande combien il y a de Balaam dans ce monde ce soir. Des ministres méthodistes, des ministres baptistes, des prêtres catholiques, miséricorde, qui savent que Dieu, si vous lisez les mêmes récits historiques et le même livre que moi, Balaam, maintenant remarquez, puis il a dit, « Viens ici et maudis ce peuple. » Et Balaam a dit, « Je vais consulter Dieu. » Dieu lui a dit, « N'y va pas. » Mais le lendemain matin, il a dit, il est allé le dire au sacrificateur ou au roi. Il est revenu à la charge. Il a dit, « Oh, je ferai de toi un homme important. » Alors Balaam a insisté. Dieu lui a dit, « Vas-y donc, vas-y. » Voyez, si vous ne voulez pas suivre la vérité, vous, les Nicolaïques, vous vous dites que comme Dieu accomplit pour vous ces choses, qu'ils s'accomplissent là chez vous, il existe la vérité originelle. Tout ce que vous avez, c'est juste la volonté permissive de Dieu. Vous dites, Dieu nous donne le Saint-Esprit, ou il nous bénit, et nous nous faisons baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Espèce de Balaamite. Voyez, la doctrine de Balaam. Dieu l'en avait dissuadé, mais au vu de son arrogance, il l'a simplement laissé aller de l'avant pour qu'il se ponte tout seul. Il faut revenir à la vérité fondamentale, revenir à la Bible. Oh, eh bien, il nous a bénis, et dans, oh, je le sais, il a bien parlé à Balaam et lui a dit, « Vas-y, si tu veux y aller, si tu as résolu de suivre cette voie et que tu préfères le chemin de l'organisation, prends-le, vas-y. » Alors Balaam s'est mis en route, il a sauté sur sa mule, ou pas sa mule, son ânesse, et y est allé. Et à un moment donné, l'ange de l'Éternel s'est mis en travers de la route. Et vous savez, ce prophète, ce pape, évêque, cardinal, quoi qu'il ait été, il était si aveugle aux choses spirituelles, à l'idée qu'il recevrait une promotion, parce qu'il vivait près du fleuve Euphrate. J'imagine qu'il s'est dit que c'était un héritage, comme « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, pierre », ou « Sur une pierre qui était à Rome », ou quelque chose de ce genre. Mais quand il y est arrivé, l'ange se tenait là, son épée nue dans la main, et il était si aveuglé qu'il ne pouvait pas le voir. Et la mule lui a pressé le pied contre le mur, puis il a poursuivi sa route, monté sur elle. Et l'ange s'est de nouveau mis en travers de sa route. Dieu bloquera toutes les issues. Cette mule s'est de nouveau détournée du chemin. Il a sauté de son dos, a pris son bâton et s'est mis à la frapper. Cette petite ânesse gisait là et se faisait frapper sur la tête. Et c'est certain que ce qui lui a fait changer, ce qui l'a ramené à la raison, ou lui a fait savoir qu'il avait tort, c'est qu'il a fait que cette mule parle en langue. Pas une mule, c'était une ânesse. Ne dites pas que c'était une mule. Elle n'aurait pas pu saisir ce qui se passait. Elle était une hybride. Voyez-vous, l'ânesse était une semence originelle. Pour Moab, c'était Les miracles sont du passé. Toutes ces choses sont du passé. Quant à Israël, les miracles les accompagnaient. Mais cette petite ânesse s'est retournée et a dit, « N'ai-je pas toujours été ton ânesse ? Ai-je déjà ?» Et cet évêque aveuglé était encore là, à battre cette mule. La mule s'est mise à lui parler, dans une langue inconnue à une mule. Et il a dit, « Oui, tu es mon ânesse. Et est-ce que je j'ai déjà refusé de te porter, ou t'ai-je déjà déçu ? Non, jamais. Mais si j'avais une épée, je te tuerais. J'arrêterais cette réunion. Je m'en vais là-bas pour empêcher ce groupe d'exaltés de passer par ce pays. Je vais rejeter la faute sur toi. » Voyez ? Tout à coup, il a regardé autour de lui et s'est dit, « Eh bien, c'est bizarre. Je peux entendre cette mule parler. » Oh, Balaam. Voyez, Dieu a toujours parlé aux gens dans des langues inconnues. Il l'a fait au jour de... Vous dites, c'était seulement à la Pentecôte. Oh non, non, non. Au festin de Belshazzar, il a parlé en langue. Il l'a écrit sur le mur. Ils avaient là un homme qui avait le don d'interprétation. Il leur a donc donné l'interprétation et leur a dit ce qu'il en était. C'est la même chose aujourd'hui. Comme il n'y avait personne pour en donner l'interprétation, Dieu a simplement laissé ce vieux Balaam se réveiller, ce cardinal, et se rendre compte de ce que c'était. Savez-vous que cet aveugle a continué quand même? Certainement. C'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. C'est la même chose. Les Moabites, les Nicolaïtes continuent de plus belle. Ils ont poursuivi leur chemin jusque là-bas. Et il est allé. Maintenant, regardez. Si Dieu avait de la considération pour le fondamentalisme, il aurait été dans l'obligation de bénir Moab. En effet, notez que Balaam avait bâti 7 autels. C'est tout à fait vrai. Le chiffre 7, les 7 âges de l'Église. Vous voyez l'application spirituelle? Maintenant, gardez cela à l'esprit. L'application spirituelle. Je vais y arriver dans un instant. C'est un point difficile. Voyez-vous, l'application spirituelle. 7 autels, 7 taureaux, des animaux purs et 7 béliers, ce qui annonçait la venue de Christ des centaines d'années avant qu'il vienne. Mais ils croyaient. En quoi croyaient-ils? Ils croyaient en Jéhovah Dieu. Qu'est-ce qu'ils croyaient d'autre? Ils croyaient qu'il fallait offrir un sacrifice pur. C'est vrai. Et ils prétendaient qu'ils croyaient que le Messie viendrait parce qu'ils offraient un agneau mâle, c'est-à-dire un bélier. Pas vrai? Maintenant, discutez avec un baptiste une fois. Voyez s'ils ne font pas la même chose. C'est tout à fait vrai. Eh bien, quelle est donc la différence? Voici Israël ici, en bas de la colline, qui offrait les mêmes offrandes qu'eux offraient ici en haut, et qui priait le même Dieu. Ne pouvez-vous pas voir ces Nicolaïtes, ces hybrides? Voyez-vous cela? Ne voyez-vous pas ceux qui étaient vraiment spirituels? Quelle était la différence entre les deux? Les miracles accompagnaient l'un d'eux. L'un en avait la forme, l'autre avait les miracles qui l'accompagnaient. C'est la même chose qui s'est passée ici, au Concile de Nicée. Le nicolaïsme, le christianisme formaliste. Et le Saint-Esprit revient dire, « Tu as chez toi la doctrine de Balaam. » Voyez, es-tu? Je hais les œuvres des Nicolaïtes, ces doctrines qu'ils ont, parce que c'est la doctrine de Balaam, dont l'enseignement avait été une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Comment l'avait-il fait? Et quand il est allé pour maudire ce peuple, Dieu a dit, « Je vais lier ta langue, tu ne pourras pas dire autre chose que ce que je te dis. Tu ne peux pas maudire ce que j'ai béni. » Alors, il a regardé en bas, observez cet hypocrite. Oh, nous pourrions rester bien longtemps là-dessus, voyez? Regardez ce vieux roi Balak, le chef de tout ça. Il a parlé à ce faux prophète et lui a dit, « Va là-bas et observe leurs faces cachées. » C'est ainsi que les grandes églises aiment parler de la petite minorité de Dieu. Tu sais quoi? J'ai connu l'un d'eux. Oh là là, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait ceci, il a fait cela. C'est pentecôtiste, certainement. Oh, mais si seulement vous connaissiez la vérité à leur sujet. Mais les journaux et tout n'en parleront pas. Mais qu'un petit pentecôtiste sorte un peu du droit chemin, vous verrez comment le pays tout entier va s'indigner contre cela. Certainement. Oui, monsieur. Mais remarquez bien, il a dit, observe bien leur face cachée, leur côté obscur, ce qu'ils font de pire. Balaam a dit, oui, je vais juste observer leur face cachée, les mauvaises choses qu'ils font. C'est ce que je vais faire. Je vais juste observer leur méchanceté, leur mauvais côté. En effet, s'il fallait regarder à leur mauvais côté, ils n'en manquaient pas. C'est vrai. Ils avaient commis tous les péchés possibles. Mais ce qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu ce rocher frappé, ce serpent d'airain, cette joie du roi qu'ils avaient au milieu d'eux, la guérison, les miracles, les prodiges et la colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Ce prophète aveuglé ne pouvait pas voir cela. Non, monsieur. Mais il présentait leur mauvais côté. Eh bien, j'en connais un qui est parti avec la femme d'un autre. Je connais celui-ci. Il a volé de l'argent. C'est vrai, je l'admets. Mais ils ont eu la même chose là-bas. Mais ils n'ont rien dit à ce sujet, voyez. Donc, ils présentaient uniquement ce qu'ils faisaient de pire. Mais il a dit, Dieu a dit, dis uniquement ce que je dis. Et Balaam est entré dans l'esprit. Il est entré en transe. Au lieu de maudire Israël, il l'a béni. Amen. Voilà. Maintenant, si Dieu avait de la considération ou avait égard à ce qui est fondamentaliste, ces écoles secondaires, ces grands séminaires et ces universités, ces doctorats en philosophie, ces doctorats en droit et, oh, toutes ces sortes de doctorats en théologie, eh bien, s'il avait égard à ces choses, eh bien, alors vous pourriez, il aurait fallu qu'il ait égard à ceux-là. Voyez, mais il avait eu égard à ces gens et les avait déjà bénis d'une bénédiction parce que l'Esprit, le roi, ils ont dit, il y avait un cri du roi dans le camp. Quoi? Quoi? Le roi des saints, des cris et de la joie. De quoi? D'un autre royaume. Je vais vous prouver qu'il n'était pas dénominationnel. Voulez-vous que je le fasse? Je crois que j'ai noté un passage de l'Écriture ici à ce sujet. Oui, monsieur. Laissez-moi vous prouver qu'Israël n'était pas... Prenons de nouveau dans Nombre, juste pour que vous voyez qu'ils ne l'étaient pas. Eh bien, Moab était une grande dénomination. Nous allons prendre Nombre 23, 9. Je vais commencer au verset 8. Et comment maudirais-je, a dit Balaam, celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ah oui, maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Je l'ai vu du sommet des rochers. Là, c'est Dieu. Pas du bas de la vallée, mais du sommet des rochers. Oh, il a l'œil sur le passereau, et je sais qu'il veille sur moi. Je l'ai vu du sommet des rochers. Amen. Pas du derrière une vallée pour que tu vois leur face cachée. J'ai tout vu, a dit Dieu. Je l'ai vu du sommet des rochers. Je l'ai contemplé du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ça règle la question. Ils n'étaient pas une dénomination des nations. Oh, ils erraient ça et là, dans des tentes, des ruelles, au coin de la rue, à la petite mission. Quand leur loyer accusait un retard, on les expulsait. Dieu voulait qu'ils aillent ailleurs. Voyez, ils erraient ça et là. C'est vrai. Là-bas, en Jamaïque, il n'y a pas longtemps, il y avait là un brave pentecôtiste, docteur en théologie. Et j'ai dit, « Oh, combien le Seigneur a béni l'église pentecôtiste primitive. Ils n'avaient rien. » J'ai dit, ils erraient ça et là. Il a dit, frère Branham? J'ai dit, oui frère, je l'aime, c'est un très bon frère. Il a dit, je voulais juste vous montrer où vous vous trompez. J'ai dit, oh, je suis si heureux, je veux toujours savoir où je me trompe. Et Dieu le sait, je ne veux pas être dans l'erreur. J'ai dit, eh bien, si je me trompe, je veux certainement le savoir, frère. Merci. Il a dit, vous n'arrêtez pas de faire l'éloge de ces pentecôtistes. J'ai dit, oui. Il a dit, la pire erreur qu'ils aient jamais commise, ils l'ont faite lorsqu'ils ont vendu leur propriété. Il a dit, quand la persécution a commencé, ils n'avaient même pas de maison où aller. Ils n'avaient aucun endroit où aller. Et ils erraient ça et là. J'ai dit, c'était exactement la volonté de Dieu. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, s'ils avaient eu une maison, ils y seraient retournés. Mais ils étaient obligés d'aller ici et là pour répandre en tout lieu la nouvelle au sujet de la venue du Saint-Esprit. Ne me dites pas que Dieu fait des erreurs. Il ne fait jamais d'erreurs. Il sait comment s'y prendre. Ils avaient vendu leur propriété et étaient devenus des vagabonds pour ainsi répandre la nouvelle partout. J'ai dit, la nouvelle a été répandue partout dans le monde connu d'alors, par ces gens qui erraient ça et là et qui avaient tout quitté pour avoir le Saint-Esprit. Ces gens-là ne faisaient pas partie d'une dénomination, voyez. Maintenant, souvenez-vous, la dénomination, c'est ce que Dieu appelle introduire la doctrine de Balaam. Eh bien, alors, quand il n'a pas pu les faire entrer dans cette dénomination, vous savez ce que Balaam a fait? Maintenant, écoutez attentivement, nous terminons bientôt. Là, ce que Balaam a fait, c'est exactement la même chose qui s'est faite là, au concile de Nicée. C'est pour ça qu'il a dit, tu as la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Bon, les Nicolaïtes sont ceux qui s'étaient retirés et qui voulaient former des organisations et tout, qui finalement, combien savent que c'est la vérité, que je dis l'organisation, c'est l'absolue vérité de Dieu. Ils ont finalement mis en place la plus grande organisation au monde. Et comment l'ont-ils désignée? Catholique. Et que signifie le mot catholique? Universel. Une organisation mondiale mise en place. Tous ces petits groupes doivent s'unir pour former une seule église. Maintenant, si vous remarquez, et ça continue simplement, regardez, Babylone, qu'est-ce que c'était? Qui a fondé Babylone? Nimrod. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une grande tour dans une grande ville et a obligé toutes les autres villes à payer un tribut à cette ville. Une organisation. Voilà d'où ça tire son origine. Certainement. Ils sont revenus ici dans l'âge de l'Église, se sont de nouveau organisés et y ont entraîné toutes les nations. Il est dit ici, la prostituée qui faisait boire à toutes les nations du vin de ses impudicités, les adultères qu'elle commettait. Elle prétendait être chrétienne, mais c'est ce genre de choses qu'elle distribuait. Des catéchismes, des livres de prière et tout le reste. Et les protestants ont continué dans la même lancée. Ils ont suivi exactement ces traces. Très bien. Allons juste un peu plus loin maintenant. Très bien. Très bien. Il a dit là que c'était là les doctrines de Balaam. Maintenant, qu'a fait Balaam quand il a découvert qu'il ne pouvait pas maudire Israël? Il a dit à Balak que ce serait une bonne idée, dans ce cas, qu'il invite ces gens-là aux festivités en l'honneur du Dieu. Ils avaient un grand festival là-bas, et qu'ils se préparaient à donner. Et ce festival s'appelait la fête de Baal, P-E-O-R. Baal Peor. Je suppose P-Peor. Baal Peor. C'était une fête pour adorer. Et Balaam a dit, « Bon, laisse-moi te dire, Balak, laisse-moi te donner un bon conseil. Dieu ne les maudira pas, un point c'est tout. Alors, laisse-moi te dire ce qu'on doit faire. Nous ne pouvons pas nous débarrasser d'eux. Mais si tu les invites à venir ici, tu vas faire tourner les choses en ta faveur. » Voyez, exactement ce que Constantin a fait. Parfaitement. C'est pour cela que c'est la doctrine de Balaam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors l'enseignement de Balaam s'est répandu au sein d'Israël. Ils ont invité tous les Israélites à cette grande fête, le grand gala qu'ils avaient organisé. Oh, une grande soirée, une super fiesta qu'ils avaient là-bas. Et quand ils sont arrivés là, eh bien, ces Israélites ont commencé à remarquer ces jolies femmes moabites, habillées sexy. Oui, elles n'étaient pas comme leurs filles ordinaires là-bas. Oh, elles étaient tellement belles. Oh là là, la façon dont elles étaient formées. Et oh, combien elles pouvaient s'exhiber. Ils sont tombés dans le panneau et se sont mis à commettre l'adultère. Et Balaam savait que si Dieu refusait de les maudire, il pouvait les attirer dans ce piège de la dénomination, pour ainsi provoquer la colère de Dieu et les faire périr de toute façon. Dieu les tuerait lui-même. S'il parvenait à les détourner du chemin de la vérité. Et aussitôt que vous allez vous joindre à une église, au lieu de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous êtes mort. Pas vous, mais ceux-ci. Je vais laisser cela pénétrer pendant quelques instants. Mort. Tu passes pour être vivant. C'est ce qui a été dit à Luther ici, dans l'âge de Sardes. Le mot Sardes signifie la mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est ce que Dieu a dit. Oui, voyez. Et quand ils ont commis des fornications spirituelles là-bas, l'Église s'est mariée, délaissant le baptême du Saint-Esprit pour accepter une dénomination. Ils sont morts. Voilà, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu a dit quand il s'est adressé aux Églises. Maintenant, je veux vous lire quelque chose ici que je... Et Dieu, qu'a-t-il fait? Là, quand ils ont commis ce mal et qu'ils se sont mis à commettre adultère, Dieu en a tué 42 000 d'un seul coup. 42 000 pour avoir commis l'adultère. Et de quoi parle-t-on ici dans l'Église? L'adultère spirituel. C'est-à-dire que vous professez être chrétien et vous continuez de vivre comme le monde. Oh, frère, recevez le Saint-Esprit. Éloignez-vous de ces credos et de ces choses que vous... Ils sont morts. Récitez le credo des apôtres ou un credo quelconque. Récitez quelques prières écrites dans un livre de prières ou des choses de ce genre. Jésus n'a jamais dit à son peuple de réciter une prière. Il a dit... Priez! Priez! Très bien. Bon, la fête de Constantin, c'est exactement comme celle de Balaam. Maintenant, regardez bien. Tout comme la fête païenne de Balaam. Constantin avait organisé une fête païenne. Très bien. Pergame y avait été invité. Et remarquez maintenant ce... J'ai quelque chose de noté ici. Je vais laisser cela de côté pour l'instant. Très bien. Très bien. J'essayais juste de retrouver cette note au sujet de quelque chose que j'ai relevé ici. Pergame avait été invité. Très bien. Ils avaient été invités à une fête après le concile de Nicée. Ils avaient été invités à la fête du solstice d'hiver. Cela signifie le soleil, l'adoration du soleil, qui était un dieu païen. Ça tombait le 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Et les années, le temps demeurait ainsi jusqu'au 25 décembre. C'était célébré par tous les païens comme étant l'anniversaire du Dieu Soleil. L'anniversaire du Dieu Soleil était le jour le plus court de l'année, le 21 décembre. Et quiconque a déjà lu l'histoire des églises sait que les païens adoraient ce jour-là. C'était une célébration. Eh bien, les Romains avaient les... Ils organisaient des jeux grandioses, le cirque romain. Combien ont vu ce film? Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est sorti sur les écrans récemment. Ben-Hur. Voyez? Donc, le cirque romain. C'est à cela que les Romains prenaient part le jour du soleil, pour commémorer l'anniversaire du dieu soleil. Voyez? Et là, elles ont organisé une grande fête là-bas, et ont invité les Nicolaïtes à y participer. Oh, n'est-ce pas parfait? L'enseignement de Balaam que tu as chez toi, voyez, il était dit à Pergame ce qu'ils avaient, les courses grandioses. Là, ils se sont demandés si... Ces Nicolaïtes se sont demandés, eh bien là, c'est très bien, cette grande fête, est-elle célébrée chaque année? Oui. Ainsi donc, par l'invitation adressée au soi-disant archevêque, ou peu importe le nom qu'on lui donnait à ce moment-là et tout, ils ont décidé d'en faire une chose perpétuelle. Pour faire entrer l'impudicité, pour faire entrer l'adultère, formant ainsi l'Église catholique, dont chaque dénomination protestante est membre, l'organisation. Dieu n'a pas d'organisation. Et il aime jusqu'à leur nom. C'est ce que dit la Bible. Et quand ils ont fait ça, que s'est-il passé? Ils ont dit là, il leur fallait en avoir une application spirituelle. Alors, d'avril, ils ont renvoyé l'anniversaire du Seigneur Jésus, F-I-L-S, de Dieu. Tout bon érudit et toute personne qui a des révélations spirituelles sait qu'il est né suivant le cycle de la nature. dans la même période où naissent les agneaux et tout, en avril, à beaucoup plus tard, le 25 décembre. Ils continuent d'adorer Noël, qu'ils appellent maintenant le Père Noël. Et quoi ? Oh, miséricorde ! Voyez, encore plus de fêtes païennes y ont été ajoutées. C'est tout. Voilà l'invitation Balaam. Tu as chez toi la doctrine de Balaam. La voilà. Oh Dieu, s'il te plaît, révèle cela, Père. Voyez, l'anniversaire a été renvoyé d'avril à... Maintenant, selon les historiens, toutes les preuves attestent que Jésus est né au mois d'avril, au moment où toutes les autres formes de vie apparaissent. Mais ils ont changé cela pour le 25 décembre, 5 jours plus tard, voyez, par rapport à celle du dieu païen, afin de fusionner leur cérémonie. Le paganisme est le christianisme, et le catholicisme n'est rien d'autre que le conglomérat d'un tas de superstitions païennes et des rebuts du christianisme. C'est cela, c'est vrai. Et les protestants qui courbent les chines devant ça sont précisément les filles de la mère prostituée. C'est tout à fait exact. Maintenant, que Dieu nous aide à être de vrais protestants contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Voyez ? Oh ! Et pour en faire l'application spirituelle, savez-vous ce que l'évêque a dit ? L'évêque a dit, nous avons le droit d'y prendre part, parce qu'il est le soleil de la justice. Oh, ils ont là une échappatoire, comme ce qu'ils font de Père, Fils et Saint-Esprit, Matthieu 28, 19, exactement la même chose. Bien sûr, ils ont une échappatoire, il leur faut une sorte d'application spirituelle, voyez-vous, mais ça ne... La Bible dit que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit 3 fois. Quand Dieu a décidé de confirmer quelque chose d'autre, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Tout ce qu'il a fait, il a eu recours à 2 ou 3 témoins pour prouver tout ce qu'il a fait, tout au long de l'Écriture. C'est vrai. Mais voyez-vous, ces petites choses doivent en arriver là, pour qu'ils puissent prétendre que c'est cela. Dieu le savait avant la fondation du monde. Là, ils l'ont saisi, cette application spirituelle. Comme il est le F-I-L-S de Dieu, prenons tout simplement l'anniversaire du S-O-L-E-I-L païen, et faisons-en l'anniversaire du F-I-L-S, puisqu'il est le soleil de la justice. Vous savez, les protestants se font encore avoir par ça, par des choses de ce genre. Bien sûr que oui, ils tirent cela de l'Écriture pour l'appliquer à autre chose. Oh là là, arrêtons-nous juste un instant. Très bien. Voici une petite chose que j'aimerais aborder. Prenons la fin de ce verset rapidement. Pouvons-nous faire ça? Oui. Eh bien, je vais vraiment me dépêcher. Et vous, nous allons en voir les points principaux. Très bien. Où en sommes-nous maintenant? Mais quelque chose, j'ai contre toi, Balaam, c'est vrai, j'ai parlé de ça. De même, toi aussi, la doctrine du Nicolaïte. Repens-toi, sinon je viendrai bientôt et te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh là là, ici, quand Constantin a fait ça, c'était quand ils ont organisé ce grand festival. J'ai commencé à m'éloigner de ça. Je vais attendre avant de lire cela, parce que le Saint-Esprit me ramène tout le temps en arrière. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait tantôt. Il a dit, ne retiens surtout pas ça, voyez. Je vais lancer quelque chose. Ah oui, 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 très bien. La raison, quand ils ont bien fini d'arranger cette chose grandiose, je veux vous dire ce qui est arrivé pour que vous compreniez. C'est là qu'est né le post-millénarisme. En effet, l'Église s'est enrichie. Elle était riche au possible. Et elle était comment? Puissante. Elle régnait sur l'État. L'État et l'Église étaient unis. Maintenant, Dieu, avec un royaume, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il, chacune de ces nations lui appartient? C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il lui a montré les royaumes du monde et a dit, ils sont tous à moi, j'en fais ce que je veux. Et là, unir Dieu et le diable? Oh, vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne le pouvez pas, certainement. C'est pour ça que l'État est organisé. Dieu n'est pas pour ces organisations, certainement pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais ils l'avaient en ce temps-là. Ils avaient leur église, appelé le christianisme. Ils l'ont uni à la nation, à tout l'Empire de Rome, totalement. Leur grand évêque là-bas régnait sur tout cela. Il s'appelait Bonnie. Après un certain temps, ils l'ont appelé pape. Mais à l'époque, c'était un évêque, Boniface III, et celui qui est devenu le premier pape. Oui, nous voyons ici qu'il a vraiment été installé là comme pape sur... Ils avaient là un dieu sous forme humaine. Ils avaient un magnifique hôtel. Ils avaient de grandes richesses. Ils avaient de magnifiques et imposants hôtels de marbre, entièrement ornés de pierres précieuses et tout. Ils avaient de grandes églises. Ils dirigeaient l'État. Et vous savez quoi? La rumeur a circulé que c'était le millénium, que toutes les promesses faites à ces pauvres juifs, que Dieu les avait abandonnés, alors qu'il a dit qu'il ne le ferait jamais. Ils ont cherché à établir le millénium avant la venue du Seigneur Jésus. C'est quand Jésus viendra que le millénium aura lieu. C'est là qu'est né le post-millénarisme. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, les catholiques n'enseignent pas la venue de Jésus. Tout cela se trouve dans l'Église. Voici le millénium. L'Église possède tout. Voici, c'est ça, voyez-vous, le post-millénarisme. Oh là là, sans le retour de Jésus-Christ. Cela a duré jusqu'à l'assassinat de Constantin, qui a eu lieu entre 312 et 312 et 606 après Jésus-Christ. Puis Boniface III a été nommé l'évêque universel, ou le pape, en charge de toute l'Église universelle. Je crois que nous allons finir ce verset, et ensuite j'aurai présenté tout cela. Loué soit Dieu, voyez. Alors je vais prendre juste quelques instants. Le verset 17, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Préférez-vous attendre jusqu'à demain soir, ou qu'on traite de cela maintenant ? » Très bien. Père Céleste, je te prie de faire en sorte que les gens comprennent maintenant, au nom du Seigneur Jésus, qu'ils puissent comprendre partout, et là où c'est bon, diront, afin qu'ils sachent que je dis ceci parce que c'est l'interprétation divine que tu m'as donnée. Amen. Celui qui vaincra. La première chose dont je veux que vous vous souveniez, c'est que chacun de ces messages est adressé non pas à l'Église, mais à l'ange de l'Église. Regardez là, le premier, l'Église d'Ephèse, à l'Église, à la... écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, n'est-ce pas? Très bien. Le prochain ange de l'Église, au verset 8, à l'ange de l'Église de Smyrne. Très bien. Et au verset 12, à l'ange de l'Église de Pergame, n'est-ce pas? Le message est adressé au chef de l'Église. Que Dieu vienne en aide à celui qui va se détourner de ce message. Mais cela a été donné à un ange, et cet ange était dans sa main, sous son contrôle à lui, et il recevait de lui, de sa main droite, le pouvoir pour réussir. Ils sont dans sa main droite. Cela signifie qu'ils ont le pouvoir suprême pendant qu'ils sont ici sur la terre. En effet, ils sont les lumières venues de lui qui apportent la lumière à cet âge de l'Église. Voyez? À l'ange de l'Église. Cela s'adresse à l'étoile de l'âge à qui a été confiée cette responsabilité. L'ange de l'Église est tenu pour responsable s'il ne prêche pas la parole. C'est vrai. Et cet ange va devoir répondre au jugement. Combien se souviennent de cette vision qui a été donnée ici, il n'y a pas longtemps, au sujet de... Regardez ici, que j'étais étendu sur le lit, et le Saint-Esprit est venu. J'ai regardé en arrière, ma femme était là, et là, j'étais étendu là, et je suis monté là, dans cette présence, et j'ai vu tous ces gens. Vous vous souvenez que j'ai raconté cela? Vous vous en souvenez tous, voyez? Et j'ai dit, eh bien, sont-ils? Il a dit, ce sont les tiens. Et j'ai dit, ce sont tous des Branham? Il a dit, non, il y en avait des millions. Il a dit, ce sont tes convertis. Et j'ai dit, convertis? Tu vois cette femme que tu admirais là-bas, jeune et belle? A-t-il dit, elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Christ. Et j'ai dit, oh, J'ai dit, « Et j'avais peur de ceci ?» Et il a dit, « Nous attendons ici la venue du Seigneur. » J'ai dit, « Je veux le voir. » Il a dit, « Tu ne peux pas le voir maintenant. » Mais a-t-il dit, « Bientôt, il viendra. » Nous l'attendons. Mais quand il viendra premièrement vers toi, et tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché, et nous serons tes sujets. Eh bien, ai-je dit, tu veux dire que je suis responsable de tout ceci? De nous tous. J'ai dit, eh bien, est-ce que tout le monde, il a dit, tu es né chef. Et j'ai dit, est-ce que tout le monde sera responsable? Il a dit, tous les chefs. J'ai dit, qu'en est-il de Paul? Il a dit, il sera responsable de son âge. Eh bien, ai-je dit, j'ai prêché le même évangile que lui, et des millions de voix se sont élevées, et ont dit, nous nous reposons là-dessus. Voyez, voilà, c'est ça, nous nous reposons. Ainsi, l'ange de Dieu, le messager de l'Église, est tenu responsable s'il ne prêche pas la parole. Très bien. La manne cachée. Donnons-en l'interprétation du mieux que nous pouvons. La manne cachée. De quoi est-ce le type? La manne cachée était une manne qui était gardée à l'endroit où, dans la Bible, c'était du pain de proposition, réservé uniquement aux sacrificateurs. Combien savent cela? Voyez, donc, ce n'était pas pour... Il y avait un pain pour l'assemblée, mais il y avait un pain spécial réservé aux sacrificateurs. N'est-ce pas? Ceci est un pain spécial. Un pain spécial. De la manne cachée. Qu'est-ce que c'est? Qui est notre manne? Christ. Très bien. Jean, chapitre 6, du verset 48 à 50, si vous prenez des notes. Jésus a dit qu'il était le pain de vie, qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu, la manne. Eh bien, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation est déversée sur l'ange de l'Église, la révélation de la parole. Voyez? La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée de toutes parts, et ensuite révélée. La manne cachée, elle est envoyée à l'ange de l'Église. Voyez, vous saisissez? C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Je me demande si Luther l'a reconnu. Je me demande si Wesley l'a fait à son époque. Oh, je me demande si Saint Martin l'a reconnu. Irénée. Eh bien, vous savez, l'Église n'a même pas canonisé ces hommes, car pour eux, ce n'étaient pas des saints, mais ce sont eux que des miracles accompagnaient. Ils ont choisi leurs propres évêques et tout, et les ont canonisés. Eh bien, ici, il n'y a pas longtemps, une femme est allée se procurer la vie de Saint-Martin dans une librairie anglaise. Et quand elle a dit « Saint-Martin », la personne l'a sorti de l'étagère et a dit « Il n'est pas très connu dans l'histoire, il n'a pas été canonisé ». Voyez, même encore aujourd'hui, mais Dieu connaît son nom, Dieu sait qui il est. Vous voyez, c'est ça la différence. Les gens veulent que leur nom soit associé à quelque chose de grand, mais le peuple de Dieu fuit ce genre de choses. Ils ne veulent pas de grandes choses imposantes, quelque chose d'une grande envergure. Ils veulent être humbles, l'humilité, la façon de monter, c'est de descendre. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'humilie, n'essayez pas d'être un grand quelque chose. Essayez d'être un petit quelque chose. Mais soyez ce que vous êtes. Voyez? Soyez petit aux yeux de Dieu. Soyez petit à vos propres yeux. Que tous les autres soient au-dessus de vous. Que celui qui est le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ, qui s'est saint et a lavé les pieds des disciples? Un larbin préposé au lavage des pieds. Voilà ce qu'il est devenu. Le Dieu du ciel, le Créateur des cieux et de la terre, qui lave les pieds sales des pécheurs. Oh, couvert de fumier et tout, de la poussière des routes, que leurs vêtements avaient ramassés. Et c'est lui qui lavait cela. Un larbin préposé au lavage des pieds. C'est ce qu'il était. Et puis, nous pensons, nous sommes quelqu'un, il nous faut être docteur, avoir un doctorat en philosophie, un tel. Oh là là, ça, ce n'est pas Christ. Cela ne reflète pas l'amour, l'aimable Jésus-Christ. Il est devenu le serviteur de tous. C'est vrai. Il nous a montré un exemple, afin que nous nous traitions l'un l'autre comme il nous a traités. Oh, ça, c'est mon Seigneur. Ce qui le rend grand, c'est qu'il s'est fait petit, voyez-vous. C'est ce qui l'a rendu grand. J'ai eu le privilège de rencontrer de grands hommes dans ma vie, et j'ai eu le privilège de rencontrer des hommes qui pensaient être grands. Un véritable grand homme cherche à vous donner l'impression que c'est vous qui êtes grand, et que lui, il n'est rien. Voyez, j'ai rencontré des rois et tout, ainsi que des hommes qui sont vraiment de grands hommes. Et vous rencontrez des chrétiens fervents qui portent des vêtements rapiécés et des choses comme ça. Et certains viennent à la chair comme s'ils sortaient directement de chez le tailleur. Et puis, voyez, oh là là, eh bien c'est tellement loin, très bien. La manne cachée, un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pas quelque chose pour les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, ça c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale, parce qu'il était censé enseigner les autres, voyez. C'était une connaissance un peu plus approfondie de l'Écriture, pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Il est censé le faire, pas vrai? Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en, voyez. Et donc, en effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il est censé savoir où est la manne pour nourrir les brebis, pas vrai? Maintenant, un petit quelque chose de spécial. Observez ceci un instant. La révélation, la manne cachée. Bon, une pierre blanche. Il aura une pierre blanche. Cet ange aura un caillou blanc. C'est une pierre, n'est-ce pas? Et un... Il a raison, la pureté. Une fois, il a rencontré un homme du nom de Simon, et il a changé son nom en celui de Pierre. Pierre. Pourquoi? Il avait les clés. Pas vrai? Il a changé son nom et a fait de lui une pierre. N'est-ce pas? Pierre avait les clés parce que c'est lui qui avait les clés du royaume. Un nom nouveau. Sur cette pierre est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il sait qui il est, mais il ne peut pas le dire aux autres. Voyez, personne d'autre que lui-même ne le sait. Voyez, Pierre savait qu'il avait les clés, mais vous ne l'avez pas entendu s'en vanter. Voyez, d'habitude, ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont rien. Oui, une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau. Pas son propre nom, mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre, voyez, et il est le seul à le savoir, lui qui a reçu la pierre, le nom, voyez, c'est une manne spéciale pour nourrir l'Église. Souvenez-vous-en, souvenez-vous, lorsque ceci s'est produit dans cette Église, c'était le même âge, au même moment où ceci a été révélé, où les Nicolaïtes avaient installé un chef pour leur Église, un pape, et ils lui ont donné un autel de pierre blanche, qu'ils ont placé plus bas, sous lui, un autel de marbre. Pas vrai? C'était incrusté de clous décoratifs et des choses comme ça, ce qui était précieux pour lui. Mais cet ange du Seigneur savait qui il était, un fils de Dieu, par la révélation de Jésus-Christ. Et quand les Nicolaïtes ont installé leur chef et ont mis à ses pieds une pierre en marbre, voyez? Dieu a installé son chef rempli de l'Esprit pour conduire son groupe rempli de l'Esprit, son ange, et il a mis sur lui le sceau d'un nom. Mais il ne doit pas le révéler, il doit garder ça pour lui-même, voyez. Personne ne le sait si ce n'est lui-même. La manne cachée, une pierre, un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et ça s'adresse à l'ange de l'Église. Je me demande si Luther le savait. Je me demande si Wesley le savait. Je me le demande au sujet des autres grands anges. Et je me demande aujourd'hui si dans l'heure, il vient bientôt dans le monde, le grand ange de lumière qui viendra à nous pour nous faire sortir, le grand Saint-Esprit qui viendra avec puissance pour nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne le saura peut-être pas, mais il sera là un de ces jours. Dieu le fera connaître. Il n'aura pas à faire sa propre publicité. Dieu le fera connaître. Dieu confirmera les siens. C'est ce qu'il a dit quand Jésus était ici et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Voyez, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père et que vous ne me croyez pas, alors croyez les œuvres, pas vrai? Oh, n'est-il pas merveilleux, le livre de l'Apocalypse. Maintenant, voyez-vous où en sont les églises? Voyez-vous la marche de l'église? Voyez-vous à quoi l'église a abouti ici? Maintenant, voici l'âge que nous aborderons demain soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez pris les notes pour que j'en ai quelques-unes de plus ici, 3 ou 4 pages de plus, mais je n'ai tout simplement pas le temps de les aborder, parce qu'il se fait tard. Il reste environ 17 minutes avant, mais de toute façon, nous mettrons cela dans le livre. Ainsi, nous allons la voir. Maintenant, combien l'aiment de tout leur cœur? Combien le croient de tout leur cœur? Oh, alors, pensez-vous que je me tiendrai ici simplement parce que nous ne faisons pas partie des organisations, pour dire ces choses? Comprenez-vous maintenant, frère? Pourquoi toute ma vie, j'ai lutté contre cette chose? Voyez-vous, c'était le Saint-Esprit. Je ne le comprenais pas moi-même. Il y a seulement quelques jours que j'ai compris cela. Voyez, je ne savais pas ce qui me poussait à faire ça. Je ne savais pas pourquoi je criais toujours contre les femmes qui mènent une mauvaise vie et tout. Je ne le savais pas. Je le sais maintenant. Voyez, donc, le Seigneur sait que ces choses sont mauvaises. Voici que même l'histoire atteste cela. Et la Bible dit, maintenant, regardez ici, la Bible annonce d'avance que ces choses arriveraient. Là, nous savons ça, pas vrai? Puis, nous prenons l'histoire de cet âge-là, et nous voyons que cela est arrivé exactement comme la Bible l'a dit, n'est-ce pas? Eh bien, alors, quand nous arriverons ici, à un autre âge de l'Église, à ce qu'il a prédit pour notre âge de l'Église, cela va arriver exactement comme Dieu l'a dit. Croyez-vous cela?
Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace on the streets of glory. Let me lift my voice, tears all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him. Look.
How many does?
Combien le désire? Maintenant, alors que vous vous serrez la main devant, derrière et tout autour, avec tous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, quoi qu'ils soient. Pas l'église, le calvaire.
Many arrows pierce my soul from above my Lord, lead me on to you. I must cling.
Levons-nous maintenant. Levons les mains. Comme je l'aime, comme je l'aime. Merveilleux, merveilleux.
Is my redeeming, praise his name. once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me and keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer.
Tout le monde, très fort. Oh, comme c'est merveilleux!
Oh, wonderful, wonderful that Jesus is to me. He's the Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame.
Disons ensemble, gloire à son nom, gloire à son nom, mon Rédempteur. Souvenez-vous, demain soir, 19h. D'ici là, jusqu'à ce que vous reveniez, faites ceci. Heureux de vous voir ici, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous courbons la tête pour la prière en chantant le dernier chant ou le dernier couplet.
At the name of Jesus bowing, all in prosperity.
Lord God, heal these, Lord.
Seigneur Dieu, guéris-les, Seigneur, comme nous.